C'est midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Exactement midi, une minute. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission N'en jase, votre émission d'actualité du midi. Même si on est vendredi, Pascal Sévin, ça bouge.
Ça bouge.
Ça bouge énormément dans l'actualité. Ça a commencé ce matin, là, aux alentours de 10h, alors que Donald Trump a dit « C'est ouvert, le détroit d'Hormuz ».
On attendait confirmation mondiale, parce que des fois, Donald Trump va dire ça, puis c'est pas totalement ça.
Mais là, l'Iran a confirmé, donc c'est ouvert. Alors, dans quelques instants, on va parler justement avec un ex-diplomate canadien au Liban, donc bien placé pour connaître le conflit, François Larochelle. Ça s'en vient dans quelques minutes. Ça bouge aussi à Ottawa parce que notre nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a rencontré Mark Carney.
Exactement. Donc, même avant de rencontrer son homologue, elle est montée un peu aux barricades, on va le dire comme ça. Elle a mis son pied à terre.
Vraiment.
Hein. Elle voulait absolument défendre l'utilisation de la disposition de la dérogation. Et Ottawa a l'intention de baliser ça, puis ça fait pas son affaire.
Non, ça fait pas son affaire. Donc, on va parler ça dans la deuxième heure avec Étienne-Alexandre Beauregard, là, ancien rédacteur des discours de François Legault, connaît très bien la CAQ. Vous l'avez entendu à notre émission spéciale en direct du Congrès dimanche. Vous l'entendez régulièrement sur nos ondes, donc on va parler de ceci avec lui. Ça brasse en économie. Julie White va être avec nous, PDG de Manufacturier Exportateur du Québec aux alentours de 13h en studio. Mark Carney serait trop opaque. Il parlerait pas aux provinces. Là. Il avait fait ça là, au début. Là.
Ouais.
Mais là, il gérerait les tarifs par lui-même. Ça fait pas l'affaire du Québec.
Puis rappelle-toi, Mark Carney avait dit « Faites votre liste d'épicerie. Si vous contribuez à être des éléments positifs et non perturbateurs pour le pays, je vais réaliser vos projets. »
C'est ça.
Puis c'était une garantie. Puis là, on se rend compte que finalement, ça va pas aussi vite et aussi bien qu'on le pensait. Est-ce que tu es surpris?
Pas vraiment.
C'est difficile.
Ce qu'il avait promis, c'était difficile. Il vient d'aller chercher sa majorité. Puis là, ben il a l'air avancé cavalier seul. On va parler de ça avec Julie White. Et Sylvain Junot va être en studio avec nous aux alentours de 12h30. C'est le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il a tenu à embarquer dans le débat autour de nos infrastructures qui sont désuètes, l'argent qu'il faut mettre pour réparer nos infrastructures. On n'aura pas le choix d'y poser la question à Pascal pour quel parti politique provincial il s'en va. Là, il ne peut pas faire une sortie comme ça pour le fun. Hein?
Ben, c'est juste parce qu'on trouve ça étrange. Il prend beaucoup de place dans l'actualité. Puis c'est pas une critique, là.
Mais non.
C'est juste que...
C'est ça.
Mais il vient de se faire élire. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Ah ouais,
on vous attend.
Midi 30, on parle avec Sylvain Junot. Mais avant de parler avec François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le gouvernement canadien, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, Pascal?
Bon, on a fait des courts résumés hein, dans cette...
dans cette intro-là. Hein? Je suis parti en actualité. Moi, j'ai fait du Marceau.
Tu parlais, puis j'étais comme, je vais faire mes nouvelles à travers tes déclarations. Mais effectivement, je pense que la nouvelle de la journée, qui est très loin, mais nous concerne tous, c'est que le détroit d'Hormuz est totalement ouvert. Ça, c'est grave grâce à la trêve au Liban. Et c'est ça que l'Iran a déclaré. Parce que même s'il y avait des négociations avec les États-Unis, on gardait le détroit d'Hormuz fermé, qui est le canal par excellence pour la commercialisation de bien des choses, dont le passage du pétrole. Puis on trouvait que le Liban était beaucoup trop sacrifié encore dans cette guerre-là, dans ce conflit-là, pour donner accès à ceux qui veulent passer au détroit d'Hormuz. Là, on a annoncé que c'était totalement ouvert. Il n'y a pas d'anicroche jusqu'à maintenant. Et ça va le demeurer jusqu'au reste de la trêve négociée avec Washington, donc jusqu'au 22 avril. Mais on surveille ça, assurément. Donald Trump est bien heureux. Je pense que si on voit une petite accalmie au niveau de l'essence aussi, du prix de l'essence, là, on va être content.
Ça va y faire plaisir aussi à Donald Trump qui a des difficultés avec la classe moyenne
ben
dans son pays.
L'autre nouvelle, on l'a effleuré aussi, c'est Mme Fréchette, donc Christine Fréchette, première ministre du Québec, qui donnait le ton à Mark Carney parce qu'elle a décidé qu'elle mettait son pied à terre avec le premier ministre canadien. C'était leur première rencontre. Il y a peu de choses encore qui en sont découlées, mais quand même, cette rencontre-là avait lieu ce matin. On voit qu'il y aura collaboration, mais sans léguer absolument tout ce qu'on souhaite mettre de l'avant, tomber aux oubliettes. Fait que ça, là, le Québec prend sa place, c'est sûr, avec le ton de Mme Fréchette. Et c'est surtout dans le dossier dont je vous ai évoqué, là, la disposition de la dérogation. Ça veut dire que ça donne un petit peu plus de pouvoir aux provinces. Et C'est un mémoire qui avait été déposé par le barreau du Québec devant la Cour suprême dans le dossier de la loi 21 et ça a été utilisé 10 fois au pays depuis 2018. C'est 6 fois par le gouvernement de François Legault. Fait que la CAQ est habituée de l'utiliser. Je pense que c'est un outil politique pour eux qui est très important. Et je pense pas que c'est la chose que Mark Carney préfère le plus aussi dans le contexte où il doit sortir son pays du trouble dans plein de temps.
C'est clair.
Il y a un article qui est un peu foudroyant dans le Journal de Québec en ce moment aussi et c'est celui d'un accident à Longueuil, c'est quelqu'un qui a été catégorisé comme un des pires chauffeurs du Québec. Il s'est tué. Il roulait, on dit, en fou, dans la neige, sans pneus d'hiver. C'est un véhicule qui est allé foncer dans un muret de béton. Les images sont spectaculaires et pas pour les bonnes raisons. Ça a donné aucune chance à Kesley François la nuit du 4 février 2025. Il y avait des policiers qui patrouillaient à proximité, puis il est allé à vive allure au volant d'une Hyundai Genesis, là, pas une voiture qui peut pousser autant non plus. Donc, il a perdu le contrôle de son véhicule et on parle d'une imprudence fatale. C'est un accident quand même qui avait donné des frissons et Kesley François là, cumulait les effets de période d'interdiction de conduire aussi là, pendant au moins 15 ans.
Bravo champion. C'est ce qu'on lui dit?
Pour ça qu'on l'a catégorisé notre dépêche.
C'est ça, exactement. Le détroit d'Ormuz est réouvert depuis ce matin, confirmé par l'administration Trump et également par l'Iran. Et pour en parler avec nous, qui de mieux que François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le gouvernement canadien. Monsieur Larochelle, merci beaucoup pour votre disponibilité à l'émission On en jase.
Ben, merci de m'inviter.
Monsieur Larochelle, est-ce qu'on doit penser que le détroit d'Ormuz va être réouvert pour une bonne période de temps, malgré le fait qu'Israël demeure toujours nébuleux dans des cessez-le-feu, comme on l'a vu dans le conflit avec la bande de Gaza, où on n'hésite pas justement à bombarder malgré des cessez-le-feu?
Bon, pour le détroit d'Ormuz, il y a des nuances. Les Iraniens ont annoncé là, que le détroit était ouvert, mais finalement, il semblerait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils permettraient aux bateaux d'effectivement de passer à travers, de passer le détroit d'Ormuz, mais toujours en suivant la côte iranienne, ce qui évidemment met les bateaux commerciaux à la merci d'attaques iraniennes. Et d'autre part aussi, les Américains, eux, continuent leur blocus qui vise à empêcher les bateaux de partir ou de se rendre dans des ports iraniens. Ce qui fait qu'en pratique, je ne voudrais pas faire de jeu de mots, là, mais avant qu'on assiste à un boulevard de trafic maritime le long de la côte iranienne et contournant le détroit d'Ormuz, on n'en est pas là encore parce que les armateurs sont encore très prudents, parce que tout ça est encore assez vague, là, quelles sont exactement les conditions. Et les assureurs aussi qui sont impliqués dans les assurances des bateaux, là, aussi hésitent. Donc, c'est pas réglé encore. Il va peut-être y avoir un peu plus de bateaux, mais ça va prendre du temps avant qu'on revienne à des circonstances normales. Et d'autre part, vous l'avez déjà mentionné, la trêve, c'est la durée là, est limitée à la trêve. On ne sait pas très clair si c'est la trêve entre les Américains et les Iraniens ou c'est la trêve entre Israël et le Liban, mais encore là, en principe, c'est sur une durée limitée. Donc, je pense qu'il faut, il y a beaucoup de nuances, là, il faut rester prudent avant d'annoncer là, que tout redevient la normale.
Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la commercialisation, le passage de pétrole, soit impacté favorablement là, à cette réouverture-là?
Il va peut-être y en avoir un petit peu plus, mais qu'on revienne, là, à un moment donné, je pense qu'on disait qu'il y avait à peu près 120 bateaux qui passaient tous les jours en temps normal. Alors, avant qu'on en arrive à ce stade-là, je pense que ça va prendre encore du temps. Et Trump a déjà dit, lui, que le blocus américain allait se maintenir tant qu'il n'y aurait pas là, un deal, comme il dit, avec les Iraniens. On prévoit qu'il y aurait des négociations, là, je pense, ce week-end, encore des négociations directes entre les Américains et les Iraniens. Bon, peut-être que ça va faire avancer le dossier, mais bon, ça va prendre encore un certain temps là, avant que le trafic redevienne normal.
Du côté du détroit d'Ormuz, excellente question de Martin par texto, 418-971-1021. On parlait de mines qui étaient dans l'eau, justement, pour empêcher les bateaux de passer. J'imagine que le corridor privilégié doit être déminé.
Ben, je présume qu'effectivement, c'est pour ça que les Iraniens demandent que les bateaux longent leurs côtes. C'est pas très clair non plus le nombre de mines qui ont été. Bon, première des choses, est-ce qu'il y en a eu? Ça reste à confirmer parce que là aussi, il y avait un flou, là. Et s'il y en a, ben, on ne connaît pas le nombre. Mais je présume que les Iraniens, là, eux savent où sont les mines. Et donc, c'est pour ça qu'ils voudraient que les bateaux suivent la côte iranienne pour les protéger.
Comment vous voyez la confiance qu'on peut octroyer à ces décisions-là par rapport aux gens qui les prennent?
Ben, écoutez, moi, je pense que il y a du mouvement et c'est un moyen, ça, c'est une annonce qui indique que les Iraniens semblent disposés à faire des concessions. Il y a sûrement plein de tractations actuellement qui se passent à travers entre Américains et Iraniens par l'entremise des Pakistanais. Il y avait le ministre de la Défense pakistanais qui était à Téhéran il y a quelques jours. Alors, il y a clairement des négociations qui se déroulent actuellement et effectivement, peut-être qu'il y aura une surprise et qu'il y aura un deal pour comme Trump aime bien le mot que Trump aime bien utiliser et que là on va revenir à une situation avant la guerre. Mais bon, on n'en est pas là encore.
Monsieur Larochelle, je parlais d'entrée de jeu et pour rappel, on parle avec François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le gouvernement canadien. Je parlais d'entrée de jeu d'Israël. Est-ce que les États-Unis sont capables de contrôler Israël ou eux vont continuer dans leur objectif de complètement anéantir le Hezbollah au Liban?
Écoutez, je pense que Trump fait des pressions sur Netanyahou. Et Netanyahou n'a pas tellement le choix actuellement que d'acquiescer aux pressions américaines.
Oups, on a perdu malheureusement M. Larochelle, donc petit pépin technique malheureusement, qui est arrivé. Alors, M. Larochelle mentionnait justement que Israël normalement, devrait là, être dans l'obligation là, d'obtempérer aux signaux de Donald Trump pour justement permettre une paix durable là-bas. Ben, au moins le temps de négocier un accord avec l'Iran. Donald Trump qui a mentionné dans les médias américains sur Truth Social qu'il aimerait se rendre directement au Pakistan pour négocier. Donc, ce sera un dossier à suivre. On a pour justement suivre ce dossier, on va avoir au bout du fil Simon Bourassa, conseiller en communication au CAA Québec. On va se poser deux questions avec Simon. La première, est-ce que ça va impacter immédiatement le prix de l'essence, Pascal? Et la deuxième, c'est le gros dossier de la semaine qui a commencé en fin de semaine dans les journaux de Québécois, les routes. Ouais. L'état désuet de nos routes. Et là, cette idée de créer des routes à péage.
Ben oui, la question est là. Puis, tu sais, pour donner un exemple, hier, on avait notre soirée cabane à sucre.
Ouais.
Il y a un de nos collègues qui avait à prendre le pont de Québec par la suite. Prend le pont de Québec, flat, se range sur le côté, ils étaient 8. 8 tellement le nid de poule était profond.
Aïe, aïe,
en même
aïe,
temps, dans la séquence.
Sur le pont de Québec.
Un peu après le pont de Québec, après l'avoir terminé pour tourner vers Saint-Nicolas, 8 voitures rangé sur le côté, en même temps dont une qui a eu un flat avant et arrière. Tu sais, t'as pas vraiment de ressources par la suite. Oui, tu peux contacter tes assurances, mais tu peux pas rien faire avec le MTQ, tu peux rien faire avec tout ce qui se passe sur nos routes, la façon dont ça a été conçu et qu'il y a eu un gros nid de poule comme ça laissé pour compte. 8 véhicules, et là, on parle d'un espace de 30 minutes, là.
Aïe, aïe, c'est incroyable ce qui est arrivé hier. Simon Bourassa, est-ce que tu viens d'entendre ça, toi, comme conseiller aux communications au CA Québec?
Oui, c'est malheureux. En fait, mais c'est pas malheureusement surprenant là, des nids de poules du nombre de services qu'on a fait pour des crevaisons là, du côté de l'assistance routière de CA à Québec, puis pas juste à Montréal, à Québec aussi. Puis ça, cette saison-là des nids de poules qui a commencé plus tôt que d'habitude.
Exactement. Simon, justement, avant de parler du prix de l'essence, tiens, tant qu'à être dans les nids de poule, gros dossier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, depuis cette fin de semaine sur l'état de nos routes, comment c'est désuet, un déficit peut-être de 25 milliards en termes d'entretien. Comment qu'on va faire pour réussir à remonter cette pente-là? Moi, ça m'apparaît comme un dossier qu'on sera jamais capable d'arriver au bout.
Ben, il y a des solutions qui existent, mais c'est sûr qu'il va falloir se pencher sur sur ces solutions-là, puis sur comment on va faire pour rattraper le déficit de maintien d'actifs là, qui s'est creusé au cours des dernières années, pour rattraper ce laisser aller qu'on a, ben c'est ça, qu'on vit depuis plusieurs années. On a abandonné nos routes au lieu d'avoir une mentalité axée sur l'entretien. Ceci dit. C'est sûr que si on fait toujours la même recette, le gâteau, il goûte toujours pareil. Là. Donc, il va falloir changer la recette à un moment donné aussi. Puis, ben, ces solutions-là, d'abord, ça peut passer par prioriser l'entretien, c'est-à-dire éviter ou oublier carrément le développement de nouvelles infrastructures routières. Un moratoire sur la construction de nouvelles routes ou de nouvelles infrastructures routières, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas.
Hey, Simon, je t'arrête là-dessus deux secondes. Est-ce que c'est possible de le faire? Parce que, tu sais, je vais donner l'exemple là, ici dans la région de Québec. On veut prolonger l'autoroute de la Beauce. Je sais qu'à Rimouski, ils veulent la même chose. Est-ce que c'est possible de dire, hey, pendant 4-5 ans, on va mettre un moratoire là-dessus?
Ben, puis c'est possible. Il faudra demander au gouvernement si c'est possible de le faire. C'est probablement possible. Tu sais, sur la Côte-Nord aussi, ils voudraient le prolongement de leur route jusqu'à Blanc-Sablon. Tu sais, ben, il faut établir nos priorités. Puis, parce que présentement, on n'a pas les moyens de développer le réseau routier, qui est déjà très, très, très vaste, là, et de l'entretenir mm-hmm. ce qu'on a déjà. On n'a pas les moyens de faire ça. Là, on demande aux gens, mais voulez-vous qu'on augmente la taxe sur les carburants? Je vous pose la question, à 2 piastres le litre, voulez-vous qu'on augmente la taxe sur les carburants?
Non, je ne penserais pas. Toi, Pascal, je pense pas que tu veux. Nos auditeurs au 418-971-1021, voulez-vous une augmentation de taxe? Ah, attends, ça rentre par milliers, c'est non, Simon.
Ben voilà, puis tu sais, la taxe actuellement sur le carburant, la taxe sur l'essence provinciale, elle va spécifiquement pour l'entretien du réseau routier. Donc, et ça ne suffit pas. On paie des droits en immatriculation, permis de conduire qui vont sur l'entretien du réseau routier aussi. Donc là, la capacité de payer des automobilistes, là, on considère qu'elle est atteinte. Là. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Je parlais de moratoire, mais on parle aussi de réserver des sommes, là, des sommes qui sont récurrentes, de pas y aller à la semaine pour prévoir les travaux routiers. Ça pourrait être géré par un organisme indépendant aussi. Là. Est-ce que le ministère des Transports doit vraiment être l'organisme ou l'organisation qui gère les travaux routiers au Québec, puis la planification des travaux, puis les sommes qui sont consacrées? Ben, la question se pose également. Puis ben, pour le péage, sur les nouvelles infrastructures routières, si nouvelles infrastructures il y a, ben pour les entretenir, ça peut être une solution, effectivement. Par contre, nous, on n'est pas forcément pour l'instauration de péage sur des infrastructures qui existent déjà. Si elles existent déjà, ces routes-là, ces ponts-là, on aurait dû prévoir des budgets pour les entretenir. Là. On ne devrait pas aller retaxer ou recharger aux automobilistes pour ça.
Mais ça, c'est pas étrange qu'on en parle ensemble à la radio, et donc ça a été fait autour d'une table pour ceux qui faisaient ces infrastructures-là à la base. Il me semble, dans ma tête, là, c'est incompréhensible.
Oui, mais c'est une question Pascal, de mentalité, de dire on construit, mais on prévoit pas les sommes pour l'entretien, puis quand ce sera le temps de réparer, ben on cherchera de l'argent, vraisemblablement, il n'y en a pas. Puis tu sais, les nids de poules, là, un nid de poule, une crevasse là, dans une route, c'est la dernière étape de la dégradation d'une route. Là. On serait même pas supposé se rendre à l'étape du nid de poule si on entretenait nos routes correctement. Okay.
On est vraiment en déficit d'entretien quand on regarde les routes un peu partout.
Ben exactement. C'est un lourd déficit d'entretien là, parce que des nids de poules, il y en a beaucoup. Pour marquer des nids de poules sur une route neuve, c'est tranquille.
Fois que j'entends ça, moi, que le nid de poule, c'est comme la dernière étape dans la détérioration d'un réseau routier, d'une asphalte ou peu importe, d'une construction. Donc, on peut vraiment s'alerter parce que c'est partout.
Ben oui, puis ce qui arrive, c'est que souvent, on va être obligé de refaire des tronçons routiers plutôt que si on avait maintenu un entretien quotidien ou on va dire récurrent, on n'aurait pas à reconstruire aussi souvent des tronçons de route. C'est ça qui coûte cher, c'est la réfection totale des routes, pas l'entretien.
Simon, je te pose 2 questions qui viennent régulièrement au 418-971-1021. La première, est-ce qu'on peut taxer les véhicules électriques comme on a une taxe pour les véhicules à essence?
Oui, bien d'abord, c'est sûr que si on prend la part au fond des transports terrestres amenée par la taxe sur les carburants, elle diminue parce qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Donc, qui ne paie pas cette taxe-là? Ça, c'est un fait. Par contre, il y a des mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Donc, prochainement, là, au cours des prochains mois, les automobilistes propriétaires de véhicules électriques auront une taxe supplémentaire à payer, des frais supplémentaires à payer sur leur immatriculation. C'est pas des gros montants, mais ça permet quand même d'aller chercher un peu d'argent. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé là, pour faire contribuer les électromobilistes aux enveloppes dédiées à l'entretien du réseau routier. Mais est-ce que ce sera suffisant si ça continue de croître, là, la part modale de la voiture électrique? Probablement pas. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions.
La deuxième question qui vient souvent, c'est on parle de plus en plus du réseau de pistes cyclables, puis on l'a ici à Québec, justement, avec plusieurs, maintenant, corridors vivacité qui sont déneigés l'hiver, et les citoyens disent « Pourquoi, crime, on leur fait pas payer une part aux cyclistes de l'entretien, justement, de ces pistes cyclables-là? »
Ben, tu sais, là, ça, c'est un dossier qui peut être... C'est une avenue qui peut être étudiée, effectivement. Hein, tu sais, faut voir vraiment si ce serait faisable. Comment, tu sais, c'est la faisabilité de ça.
Oui, parce qu'il faudrait immatriculer les bicycles, là, dans un certain sens.
On va immatriculer des... Il y a déjà beaucoup de couches d'enregistrement.
Oui, c'est ça, on rajoute une couche administrative. Là.
On rajoute un layer de... En tout cas, la faisabilité me fait douter de cette possibilité-là.
Ouais. Hey, autre question aussi qui vient régulièrement par texto. C'est quelle essence qui coûte le plus cher? Là, on est tout mêlé, là. Oui. Hein, Pascal? On en parlait aussi.
C'est la question
ce matin,
de la semaine. Ouais.
Parce que là, on nous expliquait qu'en hiver, l'essence d'hiver coûtait plus cher parce qu'on ajoutait des additifs. Mais là, dernièrement, ben, cette semaine, quand Mark Carney a annoncé réduction de la taxe de 10 cents le litre, on a dit ouais, mais là, l'essence d'été arrive, ça va coûter 6 cents de plus le litre. Simon, démêle-nous, s'il vous plaît.
Ouais, ben d'abord, c'est pas l'ajout ou le retrait d'additifs dans l'essence qui change le prix. Là. C'est l'arrêt de la production de la raffinerie pour changer le type d'essence qui fait en sorte qu'on doit augmenter le prix. Puis en passant, on tombe dans les mythes et légendes, là, parce que oui, il y a effectivement des additifs différents entre l'essence, on va dire, d'été et celle d'hiver, là, mais ça n'a pas un impact à la pompe qui est significatif. Là. On parle vraiment pas de 4, 5 ou 6 sous de différence quand il y a ce changement-là. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a remarqué ou qu'on a été en mesure d'analyser. Quand on parle du prix de l'essence au cours des dernières années.
Pourquoi on nous a dit ça d'abord cette semaine?
Ben, qui vous a dit ça cette semaine?
Ben, ça a fait tout dans les médias, là. Pascal, on l'a vu passer dans les médias un peu
partout. Oui, puis il y a des intervenants aussi qui nous le disaient quand on a des conversations sur le prix de l'essence, la montée et tout ça. Ben là, oui, parce qu'on est rendu à l'essence d'hiver, ça monte. Là, oui, mais on est rendu à l'essence d'été, ça monte. Pis c'est pour ça qu'on a commencé à se perdre dans les explications.
Ouais. Ben nous, à CA Québec, c'est pas quelque chose qu'on remarque comme quoi il y a un impact significatif du prix du litre d'essence à la pompe lorsqu'on va changer de saisonnalité d'essence, on va dire. Donc, on analyse l'essence depuis des dizaines et des dizaines d'années, là, puis t'sais, l'impact est marginal, on n'est pas dans le 4, 5, 6 sous. Donc voilà. Puis pour ce qui s'en vient, la baisse potentielle qui s'en vient lundi, c'est à Québec, ça devrait être plus significatif qu'ailleurs en passant parce que à Québec, on paye très cher notre essence. On paye plus cher notre essence à Québec qu'à Montréal là, depuis plus d'une semaine. Et ça, c'est en raison des marges au détail qui sont très, très élevées à Québec. On est autour de 19 sous le litre là, de marge là, qui va directement dans les poches des essenceries, contrairement à 9 sous le litre du côté de Montréal. Donc, normalement, ça devrait baisser de manière importante, parce que là, le prix du baril de pétrole diminue, les indicateurs pétroliers sont à la baisse en raison de ce qu'on connaît dans l'actualité aujourd'hui. Il va y avoir la taxe d'accise fédérale de 10 cents qui est retranchée, donc normalement, les marges devraient baisser aussi parce qu'elles sont trop élevées depuis une semaine, donc on devrait voir une différence normalement en début de semaine prochaine à Québec.
Simon Bourassa, conseiller en communication au CA Québec, toujours un plaisir de te parler. Tes réponses sont franches et directes, on apprécie beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end.
Merci à vous, bonne fin de semaine, salut.
Salut Simon, merci beaucoup. Bon, ben coudonc Pascal, l'essence d'été puis l'essence d'hiver, c'est pas censé coûter plus cher? Là, ici, en Capitale-Nationale, on se fait avoir parce que les détaillants ont une marge de 19 cents. Ils vont continuer à l'augmenter, cette marge-là, parce que Carney a descendu le coût? Finalement,
il y a quelque chose qu'on comprend vraiment pas, puis ça... C'est parce qu'on pose les questions, puis c'est vraiment pas Simon Tchessier.
Ben non, du tout, il nous a donné des super bonnes
au
réponses.
Au contraire, lui, il est très transparent.
Ben oui.
Il est où le nœud du problème dans notre incompréhension? Je suis certaine, Jeff, qu'au 88-971-1021, quelqu'un peut nous répondre. Selon ses connaissances, restez anonyme si vous faites partie de d'une gamique là, qui fait monter les prix, peu importe.
Ouais.
Mais avez-vous de l'information? Parce que moi, de tanker mon auto hier, tu sais, comme une petite voiture qui est vraiment pas grand-chose, 98 $. C'est la première fois de ma vie.
Ah, t'as accroché le 100 piastres. Ouais. 134 piastres, mon minivan.
C'est fou.
La lumière est allumée, là. J'ai peur. J'ai des frissons.
Ça va à Montréal aussi.
Ouais, on va prendre le char à ma blonde.
OK, tu vois.
On somme moins.
On fait des choix.
On n'a pas le choix. Okay. Un peu moins spacieux, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on va prendre. Ah, c'est-tu quoi, finalement, Pascal? Là, je vais utiliser ce terme grossier-là. On va toujours se faire fourrer avec l'essence.
Mais moi, je voulais pas être dans cette équipe-là. Parce que
moi
je me dis, il y a tout le temps des explications. Puis on le voit avec le Moyen-Orient et tout ça. Mais là.
Tu sais comment je déteste dire ce que je viens de dire. Mais là, boutillage. On s'en sortira pas.
Ou on est cancre. On est con.
Ouais.
Si on est con, dites-le nous.
C'est ça.
T'sais, on veut plus être con. On veut sortir de l'ombre.
On veut être intelligent. Plusieurs réactions par texto, notamment taxer les vélos. Il y a des gens qui disent « Hey, on pourrait juste émettre une petite vignette payante. » Il y a d'autres auditeurs qui disent « Hey, les boys, avant de vous attaquer à taxer les vélos, il faudrait s'attaquer à comment les contrats sont donnés puis aux responsabilités des ministres et du gouvernement. » Entièrement d'accord avec ceci. On peut-tu revoir les processus d'appel d'offres que Louis nous mentionne? Je suis très d'accord. Nadine qui dit « Je vais attendre à lundi pour faire mon plein d'essence. » J'aimerais bien ça, moi aussi, mais je suis à lumière, Nadine. Je suis bien dans le trouble. Alors, et Kim qui dit « Ouais, je l'ai, ta solution, Jeff, pour améliorer le réseau routier. On va ajouter encore des cadres dans les bureaux. »
Oh non.
Non, non, Kim.
Non.
Donne pas cette idée-là, Christine Fréchette. Donne-les pas! Parlant de réseau routier qui semble quand même en beauté et d'un maire qui s'occupe des tuyaux et de l'asphalte, Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, va venir s'installer avec nous en studio justement parce qu'il a fait une autre sortie publique hier concernant justement le déficit sur nos infrastructures. Il va venir nous expliquer pourquoi il fait cette sortie publique-là. Puis Pascal, là, il est à réception. Puis à réception, normalement, c'est Boulevard qui joue. Pas week-end. Fait qu'il entend sûrement ce que je vais dire. Fait qu'on va lui demander. Coudon, M. Junot, vous lancez-vous en politique provinciale? D'après la pause. Et oui, on jase d'actualité, évidemment. À Boulevard Saint-Laurent, on vient de faire un grand tour, réouverture du détroit d'Ormuz. Pascal, on a compris que... T'as pas trop...
Mais c'est rouvert entièrement. La seule chose, c'est qu'on est tous un peu sur nos gardes et c'est de façon temporaire. Alors, c'est pendant le cessez-le-feu jusqu'au 22 avril prochain. Et ça, c'est parce qu'on a arrêté d'attaquer le Liban. Et est-ce qu'Israël pourrait décider de reprendre d'assaut la communauté du Liban? Peut-être aussi, là. Les négociations, c'est pas super facile.
Non, c'est vraiment pas facile. Hey, on a appris que Simon Bourassa qu'il n'y a pas de différence de prix entre l'essence d'été et l'essence d'hiver.
Du moins, pas se poser.
On se fait avoir.
Oui, puis que les nids de poules, si ça existe, c'est la dernière étape dans la détérioration des autoroutes ou des réseaux routiers. Ça, une première en 32 ans, moi, que je l'entends. Je sais pas si j'étais caché dans une grotte, là. Mais hier, on rappelle, dans l'espace de 30 minutes, 8 voitures qui ont fait un flat en sortie du pont de Québec.
Ça va bien.
À cause d'un gros nid de poule. Il avait mis un petit feu d'artifice. Ouais,
c'est ça.
Wow!
Dans quelques minutes, justement, on va parler de l'état de nos infrastructures avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin de Desmaures. Pour réécouter justement les deux entrevues qu'on a fait en premier segment d'émission, c'est le blvd.fm. C'est aussi la web radio. Connectez-vous aussi sur notre application BLVD 102.1, disponible sur App Store et Google Play Store. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube. Du contenu exclusif s'y retrouve, notamment les podcasts que Denis Gravel fait sur les grands événements. On a une nouvelle série qui est disponible depuis lundi. Et Vous l'avez compris, parce que le prix de l'essence, Colin, que ça fait jaser nos auditeurs, puis j'aime ça. 418-971-1021, évidemment, pour interagir avec nous à la météo. C'est une très belle journée là, qui vient de s'installer sur Québec. On parle d'un mercure qui va monter jusqu'à 14 degrés. Terminé la pluie. Demain, 19 degrés. Soleil, dimanche 10 degrés avec 100% d'opacité de pluie, donc 15 mm. Alors, ça sera de la mouille pour dimanche, mais profitez du soleil pour les deux prochains jours. Avant de parler avec le maire Junot Pascal, mis à part le détroit d'Ormuz, qu'est-ce qui se passe dans notre actualité?
Oui, bien, Christine Fréchette, première ministre du Québec, rencontre Mark Carney aujourd'hui, premier ministre du Canada. Elle a donné le ton, elle a mis son pied à terre et elle rencontre M. Carney à Ottawa. C'est un aller-retour qu'elle fait. Elle veut surtout parler du fait que c'est une façon catégorique pour elle de rejeter le fait de reparler de tout ce qui est juridiquement l'utilisation de la clause dérogatoire. Mm-hmm. La réponse, c'est non. C'est hors de question pour elle. Elle l'a répété sur ses réseaux sociaux aussi. Ça a été martelé juste avant sa rencontre avec Mark Carney. Et ben pour elle, c'est super important de garder, en fait, cette latitude politique-là. Toucher à cette clause dérogatoire serait un genre d'affront, là, en fait, en politique. Faut dire que la CAQ, là, beaucoup utilisé. Les provinces pouvaient l'utiliser, mais au Québec, on l'a utilisé beaucoup sous le gouvernement de la CAQ. Fait que c'est ça, peut-être que pour eux, c'est un petit peu plus essentiel. Sinon, je peux vous parler de la conversion d'une portion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Bien, ça, c'est plus dans les plans du gouvernement et c'est ce que nous rapportent divers médias. Le projet a été retiré du plan québécois des infrastructures de 2025, en même temps que les voies réservées et le pont d'étagement au coin Robert-Bourassa-Le Bourgneuf. Porte-parole du ministère des Transports qui mentionne que ces éléments-là étaient tous complémentaires à l'implantation du tramway et du troisième lien. Donc, lorsque ces projets-là seront plus avancés, c'est là que le ministère va réévaluer le besoin de l'implanter en complément à un réseau de mesures préférentielles en transport collectif, ainsi que les interventions prioritaires aussi à déployer si c'est requis. Je peux aussi vous dire que une vaste opération policière dans tout l'est du Québec. Opération majeure, c'est des saisies, je veux dire, monstres, mm-hmm. assez importantes. Plusieurs arrestations. C'est partout, Bas-Saint-Laurent, bien sûr, mais aussi dans notre coin. Donc, on peut parler de Rivière-Bleue, Saint-Marc, du Lac-Long, Lac-Beauport, puis ici à Québec. Opération qui a commencé à 5h30 ce matin. Jusqu'à maintenant, bien, c'est 365 000 comprimés de méthamphétamine, 8 500 médicaments d'ordonnance, 1 kilo de cocaïne, des armes, des silencieux, des chargeurs prohibés, des points américains et de l'argent canadien pour plus de 17 000 $ en ce moment là, qui a été récupéré par les policiers.
C'est énorme comme saisie. Félicitations, policiers, pour leur excellent travail.
Il y aura suspension d'Air Canada de vol vers l'aéroport JFK de New York aussi parce que le prix de l'essence joue son rôle à ce niveau-là aussi.
On est avec le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Junot. Il nous rend visite en studio. Monsieur Junot, merci de votre présence.
Bonjour.
Monsieur Junot, vous avez tenu à réagir sur, je dirais, les nombreux reportages qu'il y a eu dans les médias, notamment ceux de Québécois, avec l'état de nos infrastructures qui est en déroute, notamment on est 25 milliards en arrière pour nos routes. Ça fait pas de sens pour vous?
Bien, je trouve qu'il y a un problème de priorisation. C'est pas une question d'être pour ou contre tel ou tel autre projet. Puis on peut en parler de plusieurs. Là. On peut parler du TGV, on peut parler du
tramway.
Du tramway, on peut parler de l'agrandissement du port de Montréal à Contrecoeur, qui nous touche moins ici à Québec, mais quand même, mm-hmm. là, c'est l'argent public à hauteur de plusieurs milliards, et ainsi de suite. Je répète que ce n'est pas une question d'être pour ou contre ces projets-là. On pourra en discuter, mais ce n'est pas mon point. C'est que tant et aussi longtemps que ce qu'on a déjà et qu'on veut conserver est en piètre état, et on le sait, ben c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne priorisation que d'aller dépenser à tour de bras dans autre chose que ce qui crie. Et ce qui crie, ben ce sont nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, nos barrages, nos ponts, etc., etc. L'aqueduc, nos aqueducs, mmh. nos égouts, qui sont tous en des états pitoyables. Sauf à Saint-Augustin-des-Morts, évidemment.
Et... prêcher pour votre paroisse.
Mais, mais vous commentez beaucoup aussi, plus que ce qu'on a vu vous auparavant. Bon, il y a un grand taux de vote en votre faveur, c'est sûr, dans toutes les dernières élections auxquelles vous avez participé. Mais on vous voit prendre de plus en plus la parole. Vous avez fait des lettres ouvertes au lieu de peut-être rencontrer Bruno Marchand de façon un petit peu plus discrète, tiens, entre deux homologues qui ont envie de se prendre par la main et d'avancer ensemble. Je vous vois sourire. Qu'est-ce qui se passe, M. Junot?
Oh, rien de spécial. Écoutez, sur certains points, je suis sorti en ma qualité de maire de Saint-Augustin-des-Morts, membre de l'agglomération. Donc, la question de...
Pour ce que vous avez parlé du tramway.
La séquence des décisions dans le tramway. Puis d'ailleurs, j'entendais dans vos manchettes, puis ça a été de la musique à mes oreilles, que le gouvernement met sur la glace un pont d'étagement, puis toutes sortes d'autres choses. Pas parce que c'est pas des bonnes idées, là, mais parce qu'ils sont liés au tramway. Puis le gouvernement dit... Quand on saura, puis on verra si le tramway, ça se fait, comment ça marche,
tramway,
là, on procédera. Ça, c'est une bonne gestion de la séquence des décisions et gestion de projet. Mais je reviens donc, je suis sorti publiquement pour des choses qui concernaient l'agglo, la région, etc., où là, j'étais carrément partie prenante.
Mais pourquoi pas rencontrer parle... M. Marchand en solo, en discrétion?
Ah, ben non, mais là-dessus, le tramway et tout ce que vous voudrez, autre sujet, ben ça a été discuté à l'aglo, à la CMQ et autres. Et c'est pas. Quand je m'adresse publiquement, là, je m'adresse pas du tout à M. Marchand. Je m'adresse d'abord et avant tout aux Augustinois, puis aux citoyens, puis à tous mes collègues, incluant M. Marchand. Mais faut pas voir ça comme une discussion ou une interpellation de M. Marchand. Là, moi.
Moi, je sens que vous voudrez vous adresser à la CAQ, vous adresser au prochain parti politique qui va gérer la province. Est-ce que je me trompe?
Ben, en fait, je m'adresse à tout le monde, entre guillemets, là, en ce sens que, ben, vous le savez, je l'ai déjà raconté, je suis ingénieur civil en géotechnique routière. Fait que, écoutez, moi, quand on me parle de grands projets de milliards à gauche, à droite, puis que les routes sont dans l'état qu'on connaît, parce que c'est ce qui est d'actualité actuellement, parce que les médias en ont fait mention, mais je reviens, les barrages, juste ça, les barrages, juste l'aqueduc. C'est l'aqueduc, là, c'est la salubrité, mais c'est aussi la protection incendie. Partout au Québec, là, c'est criant, les besoins. Donc, il y a besoin, quelque part, de réfléchir et de prendre un peu de recul puis de prioriser les choses comme il faut et de bien utiliser l'argent qu'on a. Parce que de l'argent, là, on entend tout le temps, il faut des nouvelles sources de revenus, puis il faut aussi, puis il faut ça. De l'argent, il y en a. Il y en a plein de l'argent. Ouais. Il faut bien l'administrer, bien le gérer et commencer par utiliser ce qu'on a avant de penser à aller chercher plus chez le citoyen. Donc, la taxite à gauche, à droite, là, nommez-le toutes les formes de taxite. Je veux bien, mais une fois qu'on aura bien utilisé ce qu'on a, ça, c'est vrai, par exemple, dans les matières résiduelles. On a entendu qu'on parlait dans certaines villes au Québec, là, de vouloir taxer à la levée selon le poids, etc. etc. L'argent, il est là déjà. Il faut faire avec ce qu'on a bien et entretenir ce qu'on a aussi avant de penser à d'autres projets.
Ah, vous avez un discours qui résonne énormément chez nos auditeurs. Il n'y a pas de doute là-dessus avec moins de taxes, réparer ce qu'on a avant de construire, tout ça. Ça fait aucun doute dans mon esprit. Puis on le voit au 418-971-1021. Ceci dit, avez-vous des visées pour la politique provinciale? Parlez comme quelqu'un qui veut s'en aller au provincial. Puis là, je regarde la circonscription de Louis Hébert. Bon, le PQ a annoncé son candidat, mais pas le PLQ. Puis comment ça chauffait le PQ, là, Louis Hébert et le PLQ?
Écoutez, j'ai eu la question récemment à savoir si la politique autre que municipale pourrait m'intéresser. J'ai bien clairement dit que le fédéral pour aucune considération et que je ne fermais pas la porte au provincial. Mais il faut bien l'entendre pour ce que c'est, là. Ouais. Point. C'est juste que je ferme pas. C'est-à-dire que peut-être...
Avez-vous été approché?
Non. Puis dans 10 ans, je ne veux pas revenir ici. Puis vous me dites, hey, vous nous aviez dit que jamais, puis là, vous êtes rendu. Bon.
Fait que je comprends pourquoi vous
fermez pas. Mais cela dit, là, je suis élu comme maire de Saint-Augustin-des-Morts jusqu'en 2029.
Oui, vous venez
juste.
Et
je vais
juste,
être là jusqu'en 2029.
OK.
Ça, c'est sûr.
OK.
Est-ce que si les élections municipales avaient lieu à l'automne, je me représenterais à la ville de Saint-Augustin-des-Morts? La réponse, c'est oui.
Okay.
Mais là, c'est dans 3 ans et quelques.
Parfait.
Je ne sais pas ce qui arrive.
Mais pas pour vous ne présenterez pas à la prochaine campagne électorale.
Provinciale.
Ouais. Donc, provinciale, au mois d'octobre, on ne vous voit pas votre figure sur une pancarte de quelconque parti politique.
Non. Mais la politique provinciale m'intéresse et je ne ferme pas la porte. point.
Mais la fédérale?
Du tout.
C'est trop loin du monde, ça?
Ah, oh, ben, ça m'est étranger, le Canada. C'est ça. Voilà.
Ah, non, mais
ah, ouais. Hey, le Canada, il est étranger à ta minute, là. On commence à comprendre vers quel parti il va peut-être aller en 2000.
Mon passeport est canadien, 40. Mais j'aimerais bien qu'il soit québécois.
OK. Vous êtes un souverainiste?
Oui.
Ah, et pour quelle raison? Tiens, ça m'intéresse.
Ah, ben, il y a tas de choses, mais. Parce que,
en tout cas, votre téléphone va sonner après, monsieur.
J'avoue une heure ou deux, mais.
Bon, les principales, là. Faites-moi un bon résumé.
Non, mais je vais vous faire juste une comparaison. Je pense que le Québec a besoin du Canada comme Saint-Augustin-de-Desmaures a besoin de l'aglo.
Vous faites une corrélation.
Bien, ça vous donne une image. Dans le sens, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans des collaborations.
Qu'est-ce qui nuit,
mais
là? Qu'est-ce qui nuit au provincial?
Son, d'avoir son autonomie comme province, comme ville, c'est fondamental. Ça nous permet... Je ne parle pas à travers mon chapeau, là, chez nous, là, nos finances. Là, j'invite n'importe qui à venir voir. Ça va. Notre déneigement, ça va. Nos tuyaux sont en ordre.
Les routes, non.
Les routes, non, vous dites?
Bien, je trouve que les trières, c'est difficile.
Vous parlez de d'asphalte? Oui. Ou de... Bien, c'est dans le PQI. Là, c'est... Ben, oui. On ne peut pas tout faire en même temps.
Non.
mais il y a des rénovations. On retape à tour de bras à chaque
année.
Moi,
c'est mon zigzag quotidien. Là.
Je comprends.
Mais, je viens d'avoir un texto de PSPP.
Il y a une petite équipe.
Ouais,
en ce moment, elle est son équipe, il y a de la place.
Il m'a dit, c'est bien, 815 boulevard Le Bourgneuf, bureau 505.
Ils ne font jamais ça ici.
Oui, PSPP. Non, non, il va juste venir l'accueillir à la porte.
Mais monsieur Chineau, qu'est-ce qui manque au provincial?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
La question est large, je comprends.
Mais
qu'est-ce qui manque en ce moment? Si vous parlez du fait que le Québec devrait rayonner à l'intérieur du Canada, peut-être à l'extérieur du Canada. Qu'est-ce qui manque au provincial en ce moment pour assouvir votre désir que ça roule mieux au niveau du provincial puis que ça pourrait vous intéresser de vous présenter un jour, jamais?
Il manque des pouvoirs, en fait. Il manque des pouvoirs, puis il y a trop d'argent sur lequel on n'a pas le contrôle. Il y a beaucoup d'argent qui est envoyé à Ottawa, on le sait, et qui est gouverné par Ottawa.
Mais vous avez des défis là, d'être dans une agglomération à l'extérieur de la ville de Québec. Ça a ses avantages aussi. C'est comme dans n'importe quel couple, il y a des pour et contre. les contres que vous voyez d'être à l'extérieur, d'être un peu le Gaulois, là. À Saint-Augustin, le Gaulois, mais si vous vous séparez avec le Québec parce que vous décidez que vous allez aux élections provinciales.
J'aime pas la comparaison avec le Gaulois parce qu'on réfère à Astérix, puis... En fait, dans Astérix, les gentils, ce sont les Gaulois, et les vilains, ce sont les Romains. Je ne veux pas taper sur personne, moi, là. J'ai pas, vous comprenez ce que je veux dire?
Vous comprenez ma question.
Oui, oui, mais tu sais, nous autres, on n'est pas moi, je dis moi, mais c'est mon conseil, là, l'ensemble de mes conseillers. On a à cœur Saint-Augustin-de-Desmaures, et on veut très bien fonctionner au sein d'une aglo. Aucun problème, en autant que les choses se fassent correctement et de façon équitable. Ce qui, actuellement, selon nous, n'est pas le cas.
Je termine cette entrevue avec cette dernière question. M. Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, êtes-vous déçu de voir que CDP Quinfra va commencer à couper des arbres? Ça a été annoncé là, en conférence de presse. Ça va être fait là, vers la fin de l'été.
Bien là, je ne veux pas vous corriger. Peut-être que j'ai mal saisi, mais c'est pas CPDQ Infra qui va y couper, si j'ai bien compris. Ce sont les travaux préparatoires qui sont sur
exactement.
La responsabilité de la ville.
Oui, en effet,
Québec.
En effet. Donc, mais qu'eux ont confirmé en conférence de presse.
Oui, absolument. Je ne sais pas si je veux jouer ces mots, là, mais je trouve que c'est une très mauvaise gestion de projet en ce sens que, et le provincial, puis je répète, on l'a dit en entrée de jeu avec les manchettes, le provincial vient dire un instant, on ne fera pas le pont là, on ne fera pas le pont d'étagement, etc., parce que on va voir le tramway comment, puis bon. Et on a entendu au dernier budget aussi qu'il n'est même pas en phase de réalisation aux yeux du gouvernement. Donc,
en effet.
Donc, puis Ottawa, on s'entend, on est d'accord, là, qu'il y a 1,4 milliard qui est ça, c'est en anglais, il dirait que c'est canné.
Ouais.
Mais autrement, non. Fait que qui paye quoi? La CPDQ Infra est supposée payer un pourcentage d'un montant qu'on ne connaît pas.
Oui, mais c'est ça. Puis là, un pourcentage, ils vont vouloir une rentabilité. Non, il y a énormément d'incertitudes.
Donc, il y a énormément d'incertitudes, puis on a des élections provinciales dans 6 mois. Alors, qu'adviendra-t-il? Et une fois qu'on a dit tout ça, là, le projet, là, il n'est pas encore sécurisé, tant qu'à moi. Donc, on ne pose pas de gestes irréversibles. On peut placoter, on peut négocier, ça, mais on ne va pas abattre des arbres centenaires quand on ne sait pas si le projet va se faire ou pas. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas abattre d'arbres. Si y a un projet qui se fait...
Vous dites qu'il faut que ça se fasse dans la bonne séquence, on comprend ça à 100%.
La gestion de projet, c'est ahurissant. de penser que des gouvernants, des décideurs vont procéder à l'envers de la gestion de projet de base. Là. Et je le disais dans ma lettre d'hier, quand on veut réparer notre plomberie, on appelle un plombier. Quand on veut aller en voyage, on prend un agent de voyage. Mais quand on veut des gouvernants, le législateur a prévu pas ça du tout. Il a prévu que on va désigner des gens au vote. Puis ça. Je suis pas pour, pas contre, c'est pas ça mon point, mais c'est simplement de dire que les gens qui sont élus ont pas, puis là je pèse mes mots, ont pas nécessairement les compétences pour prendre toutes ces décisions-là. Il est important à ce moment-là de se baser sur les experts, la science, puis les bonnes pratiques.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Et à partir de là, puis j'en suis un élu, là. Je suis pas en train de juger puis de prendre les autres
de haut. Vous mettez pas au-dessus de la masse. Là.
Pas tout, mais l'important, c'est d'y aller dans le sens du monde, avec les règles de l'art, les bonnes pratiques. Et là, c'est pas ça qui se passe. Mm-hmm. On va pas abattre des arbres, puis... J'en entends des gens me dire « Mêle toute ta ville. » c'est pas mal. Dans ma ville, les arbres, c'est dans mon agglo. Je suis membre du conseil d'agglomération. Mm-hmm. Donc, l'agglomération de Québec, dont je fais partie, va abattre des arbres qui donnent un cachet fantastique à notre ville, alors qu'on sait pas si le projet va se faire. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens.
Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, merci beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. On est content d'avoir appris que vous êtes souverainiste. On est content d'apprendre que vous ne serez pas sur une pancarte du PQ aux prochaines élections provinciales, c'est-à-dire en 2026, mais on garde la porte ouverte pour 2030.
Ou plus tard, je ne sais pas.
Ou plus tard.
C'est pas un objectif. C'est juste que je ferme pas la porte.
Yes.
Merci. Je viendrai peut-être travailler avec vous aussi.
Ah, ben pourquoi pas?
On en a vu d'autres. Hein?
Let's go. Merci, M. Junot. Passez un beau week-end.
Vous aussi.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
L'émission On en jase, c'est une émission d'actualité. C'est une émission où on jase des grands dossiers. Très belle entrevue avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Que vous aimez Sylvain Junot, 418-971-1021. Moi, j'aime bien sa vision très...
Faites attention, nid de poule hein, sur les trières en partant.
De l'actualité, honnêtement, et des projets.
Je vais prendre des photos. Il dit, il y en a juste un.
Là, il y a de la chicane là, entre Sylvain Junot et Pascal Sévin à savoir sur les trières. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a-tu un, plusieurs, nid de poule? On verra. Bref, il y a une autre place où il y a de la chicane, Pascal Sévin, puis c'est dans le caucus du Parti conservateur du Canada.
Oui, oui.
Ça sort à grande porte, ça s'en va chez les libéraux. On nous dit non, c'est pas grave. Mais Pierre Poilievre est en danger. Et pour en parler avec nous, on retrouve notre vulgarisateur d'actualité et chroniqueur politique, Lambert Drainville. Lambert, comment vas-tu, mon chum?
Ça va bien, vous autres, comment ça va?
Ça va super bien. Lambert, on commence, je te fais entendre Andrew Scheer et Gabriel Hardy, deux députés du Parti conservateur du Canada, concernant le caucus conservateur.
Unis en derrière de M. Poilievre. Il a une vision claire pour les Canadiens, particulièrement les jeunes Canadiens qui ne peuvent pas acheter une maison, obtenir un emploi. Alors, on va continuer de parler des enjeux qui touchent la vie de tous les Canadiens.
On sort d'une élection il n'y a pas longtemps avec le plus haut vote depuis Brian Mulroney. On a une plateforme qui est solide. Alors, je pense qu'on est une belle solution pour les Canadiens.
Alors, à quel point les...
Lambert, je retiens de Andrew Scheer et Gabriel Hardy qu'on n'a jamais mentionné le nom de Pierre Poilievre. On a parlé de caucus uni, on a parlé de plus haut taux de vote depuis Brian Mulroney, mais on n'a jamais salué la performance ou le travail de Pierre Poilievre. Est-ce que j'analyse bien cet extrait?
C'est sûr que... fallait pas s'attendre à ce qu'on entende quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, depuis l'élection qu'il mentionne, que le caucus est uni derrière Pierre Poilievre, et ça n'a pas empêché quand même le 4 de leurs élus de traverser de l'autre bord de la Chambre. Moi, ma vision là-dessus, c'est que je me demande si, au final, c'est pas un mal pour un bien, Jeff et Pascal, cette majorité-là que Carney est allé chercher aux mains essentiellement des conservateurs. Et je m'explique, c'est que ce que ça offre à Pierre Poilievre, c'est probablement ce dont il a le plus besoin présentement, c'est-à-dire du temps.
Mm-hmm.
Il a besoin de temps, Pierre Poilievre. D'abord, s'il y avait une élection demain matin, là, si on regarde les chiffres, les conservateurs sont à 30 %, les libéraux à 45 %. Les libéraux à 45 %, là, au national, on n'a pas vu ça souvent au courant de l'histoire. les conditions, disons, sont tout sauf idéales là, pour n'importe quel parti d'opposition à Ottawa, avec ce qui se passe avec Trump, avec ce qui se passe à l'international. L'effet Carney, là, il est encore très, très fort. On l'a vu avec le résultat des trois partiels et particulièrement le résultat dans Terrebonne, qui n'avait pas été libéral depuis 40 ans. Et pour gagner, comme Gabriel Hardy l'a dit, ils ont fait un super score, les conservateurs, aux élections, mais ça n'a quand même pas été assez. Pourquoi, Jeff, ça n'a pas été assez aux dernières élections pour les conservateurs?
Ben, plusieurs choses, je te dirais, entre autres au Québec, où on a voté énormément libéral, puis je te dirais où, et là je sais qu'il y a des auditeurs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais où la majorité des Québécois ne se retrouvent pas dans les valeurs identitaires des conservateurs.
Il y a certainement une partie de la réponse qui se situe là, mais moi, je m'enlignais beaucoup plus pour te parler de l'effondrement du NPD.
Oui, rappelle, en effet.
C'est la grosse variable de la façon dont le vote est concentré à travers le Canada, avec avec quelques provinces seulement qui votent très, très conservateur, et dans l'est du pays, notamment en Ontario, au Québec, c'est beaucoup plus difficile pour eux. S'ils veulent être en mesure de faire des résultats... disons, plus satisfaisant en Ontario et au Québec, particulièrement en Ontario et dans les provinces atlantiques, ils ont besoin d'un NPD fort. Alors, non seulement ce n'est pas le bon moment pour eux d'aller en élection parce que leurs chiffres ne sont pas là, mais ce 3 ans que Pierre Poilievre vient possiblement de se gagner là, bien ces 3 années qui doivent se croiser les doigts en maudit pour que le NPD et leur nouveau chef, Avi Lewis, puissent remonter dans les sondages, évidemment, en espérant que ces gains-là se fassent au profit des libéraux, ce qui est généralement le cas, et que les libéraux baissent. Fait que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je vois ça un peu comme, en anglais, ils disent « a blessing in disguise ». Si, évidemment, c'est conditionnel au fait qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop qui quittent dans les prochaines semaines, les prochains mois. S'ils réussissent à calmer, à contrôler la tempête, et à rester bien dans celle. On se rappelle qu'il y a quand même eu toute une table dans le dos au dernier congrès en janvier. Là. C'est peut-être, comme je disais, un mal pour un bien, puis il va pouvoir avoir l'occasion de espérer que le NPD monte, attendre aussi que la conjoncture change. Trump va partir éventuellement. Les guerres ne seront pas infinies au Moyen-Orient. Et bien sûr, lui, il doit se présenter aussi dans une lumière qui est plus première ministrable. Alors, ces 3 années-là lui offrent aussi cette opportunité-là de dire, bon, ben là, clairement, ça va être 3 années de gouvernance libérale. Assoyons-nous et bâtissons la meilleure stratégie pour que, à la fin de ces 3 années-là, quand Trump sera parti, quand l'effet Carney, au même titre que l'effet Trudeau, tu te rappelles la Trudeau-mania?
Ben 2015, oui.
Ça n'avait pas de bon sens. C'était les selfies. Il était au sommet de sa gloire. Il avait fait le Time Magazine des personnes les plus influentes au monde, comme Carney l'a fait d'ailleurs dans la plus récente édition. Ben, cette ballonne-là risque de se dégonfler par la nature cyclique qu'est la politique. Mm-hmm. Les conditions seront peut-être plus gagnantes pour lui en 2029, mais il doit nécessairement s'accrocher d'ici là. Puis l'autre question, c'est si tu sais, l'alternative, c'est de dire bon, mais s'il y a d'autres élus qui partent, on le sort. Et la question qui vient ensuite, c'est on le remplace par qui? Et cette question-là non plus, elle n'est pas évidente.
En effet, entièrement raison. Hey, Justin Trudeau, je pense à ça, du Times Magazine au journal à Potin avec Katy Perry. C'est beau, hein? Lambert Drainville, chicane à l'intérieur du Parti libéral du Québec, la première depuis que Charles Milliard a été élu chef. Et on écoute pourquoi.
Je suis bien sûr un promoteur et un défenseur de la langue française. Ne laissez pas nos adversaires vous dire n'importe quoi là-dessus. Je suis un fier francophone. Mes parents ne parlent pas un mot d'anglais. Je vais protéger la langue française. Ce que j'ai mentionné, c'est qu'il y a 2 éléments dans 96 avec lesquels je suis inconfortable. C'est la surcharge administrative que ça impose aux entreprises, alors que ça n'améliore pas la qualité du français. Et le fait que les immigrants doivent parler français en 6 mois, j'aimerais ça, mais c'est pas réaliste. Je suis juste honnête quand je dis ça. Alors, la loi 96, il y a des amendements que je voudrais faire, mais le reste, le fondement même, je suis en faveur et je vais remplacer ces éléments-là que je veux amender par des mesures fortes pour promouvoir la culture et les institutions culturelles.
Oh, un Charles Milliard à la tête du PLQ qui dit « Je suis pour la loi 96, la loi sur la langue officielle, le français ». quand il y a plus de députés dans son caucus présentement qui proviennent de comtés anglophones que de comtés francophones. Est-ce que, c'est ma question, est-ce que c'est du courage politique ou il aurait dû parler à son caucus avant et c'est une erreur?
Je leur ai parlé dans la séquence, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est venu sur la table avant qu'il y ait eu le temps d'en parler à son caucus, mais c'était dans ses plans d'en parler avant. Puis finalement, les médias ont posé les bonnes questions, puis le chat est sorti du sac. Écoute, Jeff, je trouve ça fou qu'on n'en ait pas encore parlé. Là, d'habitude, le vendredi, c'est le segment avec Farnell. Là.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Ouais. Allons-y. Tant qu'à parler du Parti libéral du Québec, t'as entièrement raison, Lambert.
Exact. Et quel était un de nos derniers sujets des débats Lambert et Farnell au courant des dernières semaines? Est-ce que ce ne serait pas justement l'utilisation de la clause dérogatoire et son usage de façon préventive? Je ne sais pas si tu te rappelles.
Bien sûr.
On en avait parlé. Oui. Farnell, sais-tu c'était quoi sa position là-dessus?
Farnell, sa position, c'était que les tribunaux vont faire le travail et qu'il faut faire confiance aux instances juridiques.
Exact. Et là, son nouveau chef vient de dire que pour ce qui est de la loi 96, à tout le moins, il allait renouveler la clause dérogatoire qui a été invoquée de façon préventive. Donc, ça ne va pas dans le sens de ce que Farnell semblait prêcher.
Est-ce que Farnell est déjà en chicane avec son nouveau chef aussi?
Non, je pense pas. Je pense que Farnell a dû avoir de très, très grosses discussions, le connaissant, avec Charles Milliard par rapport à la ligne de parti. Et je pense, il a d'ailleurs dit sur ses plateformes hier, Farnell, qu'il continuerait à publier des vidéos comme il le faisait. J'ai hâte de voir comment ça va se transposer au courant des prochains mois et de la campagne électorale, notamment, parce que ça peut toujours être un petit peu enquiquinant pour un chef de parti d'avoir... un membre de son caucus comme ça ou un candidat qui prend position sur tout et...
Ouais, c'est ça, qui se donne liberté par rapport au parti, là, en effet. Mais pour revenir à la clause dérogatoire, dans le fond, c'est que Charles Milliard, il a dit « Je vais amender des choses dans la loi 96, mais je vais garder la clause dérogatoire. Il n'est pas question qu'Ottawa vienne challenger cette loi-là. » Et c'est ça qui crée la chicane au caucus, là.
Oui, puis ça, c'était écrit dans le ciel que ça allait arriver, Jeff. Moi, je te l'ai dit à plusieurs reprises, le plan de match de Charles Milliard, quand il a été choisi chef, pour moi, là, c'est-à-dire son chemin vers le pouvoir, c'était le plus évident de tous les chefs de parti. Si on se met dans le contexte où présentement, bien, tu as le Parti québécois qui est premier dans les intentions de vote depuis plusieurs années. Là, ça vient dans le dernier sondage juste de changer, dépassé par les libéraux. Mais bref, beaucoup de gens qui veulent possiblement pas d'un référendum, donc... bon, PQ n'est pas une option dans leur tête. La CAQ, beaucoup de gens en ont soupé, donc la CAQ n'est plus une option. Québec solidaire, période très difficile, je pense que pour plusieurs personnes, ce n'est pas une option. Je pense que Éric Duhaime ne s'est pas normalisé encore auprès de,
en effet.
De tout l'électorat. Et donc, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste le Parti libéral. Alors, quand je dis que leur plan de match est le plus évident, c'est que eux autres, mission reconquérir l'électorat francophone, c'est... l'élément qui fait en sorte que tu gagnes une élection au Québec. Et donc, quand il est entré en poste, je t'ai dit, il n'aura pas le choix s'il veut pas juste être compétitif, mais s'il veut gagner à la prochaine élection, d'aller plus loin sur des enjeux identitaires, le français, la laïcité, que les positions qui ont été prises dans les dernières années par le Parti libéral. Et clairement, il a compris le message parce que là, il va plus loin au niveau de la loi 96. Il a fermer la porte sur le renouvellement de la clause pour la loi 21. Donc, il semblait dire que lui...
Oui, au niveau des signes religieux, là, entre autres, qui a fait un pas de recul. Là.
Mais lorsque je m'étais assis avec lui, et j'essaie d'ailleurs, je fais aller quelques ficelles pour voir s'il n'y a pas un journaliste sur la tribune parlementaire qui le... questionnerait là-dessus, mais à moi, en entrevue, en entretien, il y a quelques semaines de cela, tu t'en rappelles, on avait fait passer des
écrits. Oui.
Il avait clairement ouvert la porte à dire, bien, il peut se passer bien des affaires d'ici à 2029. Et donc, je garde la porte ouverte à la renouveler aussi au niveau de la loi 21.
C'est ce qu'il a dit hier devant les journalistes de l'Assemblée nationale également. Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler. On se reparle mercredi. Puis, on va souhaiter bonne chance à Farnell dans sa carrière politique. Tu seras pour le moment seul au monde le vendredi.
Ben ouais, j'étais un peu déçu. Moi, j'aimais bien ça, notre petit segment les vendredis.
Mais
ça. Avait une belle dynamique.
Salut, Lambert-Dréville.
Bonne chance. Ciao.
Yes, salut. Pascal, on parle énormément du commerce et de la guerre tarifaire depuis l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire depuis son assermentation en janvier 2025. Mais là, voilà qu'ici au Canada, ça semble être problématique, ce renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, à l'effet que l'équipe Carney serait très opaque. Mm-hmm. Et l'équipe du Québec n'aurait pas beaucoup d'informations.
Ça se demandait, c'est-tu pour le Québec seulement ou chaque province vit
Exactement.
La même chose? Parce que ce n'était pas ce qu'on nous avait promis, bien au contraire. On voulait un grand travail de collaboration pour faire un Canada fort et fier.
C'est ça. Alors, après la pause, on va parler avec Julie White, PDG de manufacturier et exportateur du Québec, PDG au Québec. Donc, elle va nous parler de cette opacité. Puis, qu'est-ce qu'il y aurait besoin au Québec pour ces négociations-là? Mais avant d'aller à la pause, il y a de la circulation.
Juste un petit clin d'œil à ce qui se passe sur la capitale Est. On nous mentionne au 88-971-1021 qu'il y aurait du trafic. Je vois rien, Jeff, du côté du 511, mes cartes et tout ça. Mais ça serait très lent entre l'Ormière et l'Or-Ancienne. Ben, faites attention, des fois, on se fait surprendre.
Oui, en effet. Donc, après la pause, Julie White qui s'en vient en studio avec nous. Merci d'être à l'écoute de l'émission On jase sur Boulevard 102.1. On le voit dans nos statistiques de streaming. Vous êtes de plus en plus à être à l'écoute de notre émission. On se sent choyé. Donc, vous pouvez nous écouter d'ailleurs via le BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store. Vous pouvez nous écouter via votre haut-parleur intelligent en disant « Écoutez BLVD 102.1 » et via le blvd.fm. C'est notre web radio. En attendant de parler avec Julie White de négociations avec les États-Unis concernant l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Pascal, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
On s'était mis une note de vous revenir là-dessus vendredi au minimum. Hein. C'est les travaux qui sont en cours sur le boulevard Laurier. Donc, pour la Ville de Québec, on nous a informé qu'il y en aura. Et ça va entraîner, du même coup, 3 prochaines semaines plus difficiles. Donc, restrictions additionnelles à la circulation dans certains secteurs et par phase. Je vous parle, entre autres, de la circulation automobile qui va être réduite à une seule voie par direction sur le boulevard Laurier, des épisodes de congestion à prévoir. Présence policière aussi qui va être assurée. On veut faciliter les déplacements. On propose le boulevard Hochelaga comme itinéraire alternatif. On veut finalement contourner le secteur entravé. Puis on vous rappelle, de manière générale, 2 voies de circulation par direction, ça va être maintenu pendant les travaux de réfection puis de construction des réseaux d'aqueduc, d'égouts, mais ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année du côté nord du boulevard Laurier. Là.
Ouf, on est installé. Ça va être très difficile, la circulation.
Puis on ajoute à ça d'autres entraves. Ça va être déployé sur les axes névralgiques des secteurs du plateau de Sainte-Foy et de Chaudière. Et ben, ça va être jusqu'à lundi, au moins pour la portion d'Henri IV. Là. Ça va être fermé dans les deux directions. Il faudra emprunter Duplessis pour avoir accès au pont. Très complexe.
Oui, vraiment.
Conversion d'une portion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain, mais c'est plus dans les plans du gouvernement et c'est ce que rapportent plusieurs médias aujourd'hui. Le projet a été retiré du plan québécois des infrastructures de 2025 et ça a été fait en même temps que le retrait des voies réservées et le pont d'étagement au coin Robert-Bourassa et Le Bourgneuf. Ce matin, on a renchéri là-dessus. C'est tous complémentaires à l'implantation du tramway et du troisième lien, ces projets-là. Donc, on indique que quand les projets seront plus avancés, là, le ministère va réévaluer le besoin d'implanter en complément le réseau de mesures préférentielles en transport collectif et peut-être qu'on va revenir avec ces interventions prioritaires à déployer, mais ça, c'est si c'est requis. Ça a bien fait jaser le maire du côté de Saint-Augustin, hein,
Sylvain Junot.
Il est venu nous parler puis il en était bien heureux,
mais oui.
Ça va un peu dans le branle-bas de combat de ce qu'on
Exactement.
Vit avec le tramway.
On a appris que Sylvain Junot était souverainiste, on a appris qu'il va rester à la tête de la ville de Saint-Augustin au moins jusqu'à la fin de son mandat en 2029. C'est à réécouter sur le blvd.fm.
On a appris aussi que le fédéral ne l'intéresse pas, mais que le provincial, oui.
Ouais, c'est ça. Parier en 2030 une candidature au PQ.
Ouais,
je pense que je ne perdrais pas grand argent.
Non.
Tu as
de bonnes chances. Les statistiques semblent bonnes.
Vraiment.
Et je termine, Jeff, avec l'ouverture du détroit d'Ormuz qu'on a appris en début d'émission. Donc, on a déclaré que c'était totalement ouvert grâce à la trêve au Liban. Bon, on a eu une entrevue en début d'émission qui nous amène un peu plus de chair autour de l'os. Complètement ouvert, c'est que ça peut passer. Donc, les cargaisons peuvent passer, mais c'est un peu au risque et au péril de ces pays-là ou ces commerces-là, ces commerçants-là. Et ça ne risque pas de régler tout ce qui est prix du pétrole de façon très rapide. Puis c'est surtout temporaire, c'est jusqu'à la fin du cessez-le-feu du 22 avril prochain.
Exactement. On a parlé avec François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le Canada. En début d'émission, ça va être sur le blvd.fm. On accueille en studio la PDG de Manufacturier Exportateur au Québec, Julie White. Julie, comment vas-tu?
Je vais très bien. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Merci à toi de t'être déplacée. Julie, je voyais ça, c'était à la une du Devoir ce matin où on parlait de l'opacité du gouvernement Carney à l'effet que lors des premières négociations, quand Mark Carney est arrivé, il y avait beaucoup de rencontres interprovinciales. Tout le monde pouvait s'impliquer dans les négociations avec les États-Unis. Mais là, que ça serait devenu un cercle plus fermé. Est-ce que c'est vrai?
Oui, bien, il y a eu des consultations formelles, un processus où tout le monde pouvait envoyer un mémoire, faire leurs commentaires. Mais au-delà de ça, on a très peu d'échanges avec les gouvernements, sur la suite des choses. Il y a différents éléments. Dans le passé, on avait un négociateur pour le Québec à la table, notamment, pour être capable de faire valoir notre voix. On avait des forums de discussion. Et là, ça tarde à se mettre en place. Ça se peut que ça soit correct, mais moi, aujourd'hui, le drapeau que je lève, c'est qu'on est au secteur... Le Québec est le secteur, il est en fait la province la plus affectée par les tarifs douaniers. Desjardins a sorti une étude il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est le secteur manufacturier qui est le plus affecté par ces tarifs-là. Donc, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement fédéral soit très proche de nos préoccupations manufacturières québécoises si on veut avoir une entente qui fait du sens pour notre économie.
Oui, parce que là, j'imagine qu'il y a énormément d'entrepreneurs à l'heure actuelle qui disent « Ben, coudonc, qu'est-ce qui va m'arriver l'an prochain? » Là, cette incertitude-là, ben, ça leur empêche d'innover, ça leur empêche d'investir.
Oui, puis au-delà de cette instabilité-là, il y a des tarifs en ce moment. Puis on a tendance à l'oublier. L'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre notamment, les autobus, les cabinets de cuisine de salle de bain. Puis depuis le 2 avril, il y a une nouvelle méthodologie de calcul des tarifs qui impacte encore plus négativement ces entreprises-là qui utilisent de l'acier et de l'aluminium. Donc, il va falloir qu'on ait une entente à un certain point, plutôt que tard idéalement, pour enlever la pression pour les entreprises. Parce que là, on a certaines entreprises qui ne sont pas juste en mode « je ralentis mes investissements, j'innove pas », sont en mode « est-ce que je peux passer l'année parce que je manque de liquidité ». Donc c'est inquiétant qu'on n'ait pas autant plus de détails à cette étape-ci. Mais on est obligé de travailler quand même main dans la main avec le gouvernement. Je ne suis pas ici pour dire qu'il faut que je coupe mes liens puis que je sois fâchée après eux puis je déchire ma chemise.
Non, en effet.
Moi, je veux qu'ils m'écoutent puis je veux qu'on travaille plus ensemble. Mais j'ai rencontré Mélanie Joly la semaine passée.
Okay.
On a eu des échanges là-dessus, notamment sur les tarifs. Ça a été une bonne rencontre. Bonne rencontre en mode solution pour soutenir nos entreprises. Mais une fois qu'on dit ça, c'est pas elle qui négocie, là.
Ouais, c'est ça.
Ça fait qu'on essaie de rencontrer M. Leblanc, d'asseoir avec les grandes entreprises québécoises. Faut que la perspective québécoise soit réellement entendue parce que sinon, on va avoir un débalancement potentiel dans l'entente.
Crains-tu que l'instabilité présentement au niveau politique au Québec, bon, Christine Fréchette vient d'arriver, mais on sait qu'on part en élection, il va comme avoir un gouvernement au ralenti. Est-ce que tu crains justement cette instabilité-là pour les négociations?
Bien, c'est sûr, c'est pas le contexte idéal pour être dans une révision de la CEUM, alors que cet été, au mois de juin, quand ça va commencer, bien, les partis politiques québécois vont se chicaner un après l'autre sur différents enjeux. Mais j'ai quand même confiance que Mme Fréchette, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, qui connaît bien l'économie, qui est prête à discuter de ces enjeux-là. J'ai quand même confiance qu'elle veuille agir de façon professionnelle et sérieuse sur ça et qu'à mettre des bases fortes pour qu'on y arrive. Même si on part en élection, le gouvernement est encore en poste. Là. Il est en poste tant qu'il n'y a pas un autre gouvernement. Donc, on espère que ça ne changera pas trop les choses. Mais d'où l'importance d'être très rapidement, d'être actif avec le gouvernement fédéral puis de s'assurer que le gouvernement fédéral, là, pas dans 6 mois, s'assoit avec les entreprises les plus touchées.
Il y en a qui s'inquiètent aussi du fait qu'on avait tellement un air d'aller intéressant sur le fait que quand est arrivé Donald Trump, ses tarifs et tout ça, on s'est dit « Hey, on va devenir plus fort, on va s'auto-réglementer si on veut entre provinces. » Mark Carney avait dit « Faites votre liste d'épicerie. Si vous êtes bon joueur, vous mettez la main à la pâte, on va avancer ensemble. » Il semble avoir une petite déchirure ou un manque de possibilités en fait à ce niveau-là.
Oui, mais tu sais, les règles interprovinciales ou même l'exportation, tu sais, la diversification des marchés, ça a été les premières solutions qui ont été mises de l'avant par tout le monde. Puis c'est vrai que c'est des solutions, mais c'est des solutions qui prennent du temps. Tu sais, développer un nouveau marché, par exemple, là, c'est 3 à 5 ans. C'est que, tu sais, de dire aux entreprises, bien, arrête de vendre aux États-Unis, va vendre ailleurs. ça se fait pas en claquant des doigts. Les règles interprovinciales, ça pourrait aller plus vite. J'étais d'ailleurs hier à la Chambre des communes, je comparais ça dans un comité parlementaire pour parler de ça. C'est facile, là. Les provinces ont juste à dire reconnaissance mutuelle de nos règles, ça va baisser plein de barrières interprovinciales.
Puis pourquoi on ne fait pas? On a peur de nos chasses gardées?
Oui, un peu. Le Québec a longtemps été très, très protectionniste aussi sur ses chasses gardées. Le gouvernement a avancé, on a adopté une loi, mais c'est des choses qui sont lentes. Maintenant, les règles interprovinciales, ça va faire une certaine différence. C'est pas la mesure qui fait la plus grosse différence, mais il y a des choses qui font aller par étapes. Mais c'est sûr, il y a une chose qui est claire, là. On a les États-Unis, on ne contrôle pas Donald Trump, on ne contrôlera jamais, personne ne contrôle.
J'ai pas ça qu'il ne se contrôle pas.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il a essayé de contrôler l'Iran, il n'est pas capable. Bref, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas.
Mais il faut que les gouvernements regardent dans ce qu'ils contrôlent eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Et puis, oui, la question des règles interprovinciales, mais aussi de s'assurer de l'environnement d'affaires, la fiscalité, enlever du poids pas nécessaire sur les épaules des entreprises en ce moment. C'est ça que les gouvernements doivent regarder puis faire rapidement, en plus d'être là aussi en mode aide d'urgence pour ceux qui sont plus touchés.
Pour rappel, on parle avec Julie White, PDG chez Manufacturier Exportateur du Québec. Je termine l'entrevue avec ça. Julie, justement, t'en parlais. Le gouvernement peut faire des choses pour les entreprises. On s'en va en campagne électorale. Qu'est-ce que tu veux entendre des chefs de parti pour vous simplifier la vie, vous autres qui vivez avec des gros tarifs?
Oui, puis c'est un bon point, puis on va sortir nos demandes préélectorales très bientôt, c'est qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler plus en détail.
Ça va nous faire plaisir.
Mais la chose principale qu'on demande aux partis, tu sais, le manufacturier, en passant, on est le plus gros secteur en termes de poids du PIB dans l'économie. Là. On est le plus gros secteur.
Vous ne saviez pas, hein? Non, je ne savais pas ça.
On voit nos yeux en ce moment.
Ben exactement, puis... On connaît peu notre manufacturier, c'est le cœur économique de nos régions. On est à 12,3% du PIB. Il y a 20 ans, on était à 20%.
Aïe, aïe, fait que c'est une chute drastique
de 8%.
Il y a eu une
chute drastique parce que, oui, il y a la mondialisation, il y a des facteurs externes, mais parce qu'on s'en est très peu préoccupé. On ne sait pas ce qu'on fabrique au Québec. On ne sait pas... des fois, les usines, ça a l'air loin, éloigné de ce qu'on fait, de notre réalité. Mais tout ce qui est autour de nous ici a été fait dans une usine. Il n'y a rien qui ne sort pas d'une usine. Donc, il faut qu'on ait des politiques industrielles qui soient vraiment orientées pour relancer le secteur manufacturier. Tous les pays dans le monde, tous les pays de l'OCDE, le G7, sont orientés vers la réindustrialisation. Mm-hmm. C'est qu'il faut, il va y avoir des mesures qu'on va demander dans ce sens-là, mais notre objectif premier, c'est vraiment la revalorisation du secteur. On veut un commitment fort des partis politiques sur le fait que notre plus grand secteur, qui est le cœur économique des régions, je le répète, là, il y a plein de villes et villages, là, même pas si loin d'ici, en Beauce, que s'il n'y a pas l'usine, là, il n'y a rien autour
c'est fermé.
De ça. Donc, il faut qu'il y ait un commitment fort sur soutenir, aider, oui, l'allègement réglementaire, mais aussi aider l'investissement. C'est ça le nerf de la guerre. Je sais que c'est peut-être plate là, à dire l'investissement.
Non, mais en effet.
Mais tu sais, quand on n'investit plus dans nos entreprises, quand on n'innove pas, quand on n'achète pas de la machinerie, c'est un signe de détérioration. Puis c'est ça qu'on a vécu dans les dernières années. Il faut renverser complètement le tout de bord.
Je te ferai un comparatif, même principe avec nos infrastructures présentement.
Ah oui.
Qu'on n'a pas entretenu.
Oui. Exactement.
Mais c'est vrai.
Dur à relever. Puis c'est un méchant contrat que vous avez.
Bien, c'est pas facile, mais on est vraiment un secteur. Puis moi, ça fait un peu plus qu'un an que je suis en poste, j'ai fait des rencontres avec plein de gens, mais j'ai visité 33 usines. Puis quand tu mets les pieds dans une usine, que tu vas voir comment ça fonctionne, comment c'est innovant.
Sur le plancher des vaches, là.
Comment
être là,
ça.
Là.
Tout ce qui se fait de tellement hot puis ingénieux au Québec, que tu vois des produits que tu penses qu'on. Jamais on ferait ici, ça te donne une perspective très différente du secteur. C'est super technologique. Il y a plein de belles jobs. Des jobs bien payés. Là. Le salaire moyen, c'est 33$ dans le manif. Là. Ça fait qu'on n'est pas au salaire
minimum.
Qu'on
fait vivre le commerce local à travers
ça aussi. Exactement.
C'est
qu'il faut aussi être capable de le voir comme ça. Puis les dernières années, on a été très fort sur parler des TI, de l'informatique. Mm-hmm. C'est bien, on en a besoin. Mais c'est pas tout. Puis une nation qui est forte, bien, capable de produire des biens chez elle aussi.
En effet, t'as entièrement raison, Julie. On va être avec vous pour livrer ce combat-là, sans l'ombre d'un doute. Puis je te laisse avec quelque chose de positif, avec Christine Fréchette, ce qu'elle a dit à Mark Carney à son entrée dans son bureau.
Et puis au niveau de la protection de l'économie, avec la discussion, la négociation qui va s'amorcer sur la CEUM, ça va être essentiel pour le Québec de maintenir nos mécanismes de protection puis de propulser nos entreprises puis d'assurer un cadre stable et prévisible pour les relations d'affaires avec les États-Unis.
Alors, Julie White, dis-toi que c'est dans les priorités de la nouvelle première ministre. T'as bien fait ta job.
on les lâche pas, inquiétez-vous pas là-dessus.
Nice. Juste avant, après la pause, Étienne-Alexandre Beauregard est avec nous. On va revenir sur cette première rencontre. Marc Carney, Christine Fréchette, restez à l'antenne de Boulevard Sonneur. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
13h33 minutes. Le retour de Denis Gravel va suivre avec Denis Véro et Audrey à 14h. Par la suite, 18h ce soir, c'est vendredi. C'est le Garage à Dan avec Dan Caron du bon vieux rock à la planche. Rock and chill. Du côté acoustique, t'aimes ça? C'est les samedis et dimanches matin avec Audrey Pinchot. De 7h à 10h, le boulevard du rock les samedis avec Dan le samedi et Colosse le dimanche de 10h à 15h. Et à 15h, c'est les Colosses du rock. Samedi et dimanche, le show le plus edgy de la programmation. On sort les bonnes vieilles tunes qui bûchent comme du Rage Against the Machine. Donc, c'est à écouter notre programmation entièrement musicale de fin de semaine à compter de 18h ce soir. Pascal, je vais qualifier cette première semaine de Christine Fréchette comme première ministre du Québec de semaine hyperactive. Elle est arrivée en chou-claque à l'Hôtel de Ville de Québec. Elle est allée se faire assermenter à l'Assemblée nationale. Puis là, elle a dit « Avoye à Ottawa, aller rencontrer Marc Carney ».
Et aller-retour en plus.
Ah oui, aller-retour, let's go. Il n'y en a pas de problème. Pour en parler avec nous, bon, on va parler avec quelqu'un qui était proche de François Legault. Il a écrit ses discours. Étienne-Alexandre Beauregard est au bout du fil. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ben, ça va toujours bien quand je vous parle. Salut, Pascal.
Salut. Étienne-Alexandre, es-tu d'accord avec moi? Elle n'a pas lésigné sa première semaine, la nouvelle PM?
Ben, c'est sûr qu'elle a eu beaucoup de visibilité. Elle a voulu, je pense, établir sa marque dès le début. Rencontrer des partenaires qui sont importants pour le gouvernement du Québec, que ce soit la ville du Québec, la ville de Québec ou Ottawa. Pour ce qui est des annonces, je pense qu'on va attendre parce qu'on a eu quelques petites idées, mais encore rien de trop arrêté. Mais c'est clair que je pense qu'elle avait un gros défi là de vraiment établir ce serait quoi la marque Fréchette par rapport à la marque Legault, qu'est-ce qu'elle ferait de différent. Puis je pense qu'on a vu un peu dans sa couleur que c'est pas celle du premier ministre précédent.
Non, en effet, un petit peu plus active, un petit peu plus interactive. Étienne-Alexandre, je te fais écouter Christine Fréchette dans le bureau de Marc Carney et avant tout, la façon que Marc Carney l'a accueilli. Puis après ça, je veux te parler de nationalisme.
Ouais. Alors, c'est un grand plaisir de vous accueillir, Madame la Première ministre. Ici, Madame la Première ministre arrive avec le soleil, un mandat fort et une ordre de jour chargée, y compris des discussions sur l'immigration, des fonds de collectivité pour des communautés, des fonds pour le logement, des grands projets, afin de bâtir un Québec fort.
Donc, on retient bâtir le Québec fort. Maintenant, la réponse de Christine Fréchette.
On a un antécédent, je dirais, j'ai un antécédent de travailler avec et collaborer avec le fédéral. C'est sûr qu'il faut le faire dans le respect de la nation québécoise, dans le respect de nos champs de juridiction. Oui. On forme une nation, il faut la protéger, à la fois sur le plan identitaire, linguistique et également sur le plan économique.
Coudonc, Étienne-Alexandre, depuis que Bernard Drinville a perdu la chefferie de la CAQ, tout le monde est rendu nationaliste. Même Marc Carney veut bâtir le Québec. Je comprends plus rien.
Ouais. Ben déjà, je pense que tu parlais tout à l'heure de la rencontre avec M. Marchand,
ouais,
avec les souliers à la Ville de Québec, puis là, les embrassades avec M. Carney. Effectivement, le ton était pas le même quand c'était M. Legault, puis ça aurait pas été le même si ça avait été M. Drinville. Fait que là, je pense qu'on voit vraiment un certain changement de cap à ce niveau-là. Là, t'sais, alors que, on s'entend, ces deux chefs politiques-là qui ont pas... peut-être pas des atomes crochus avec certains éléments de la base de la CAQ. Clairement qu'il y a une tentative d'être plus conciliant, d'être plus, sans dire amical, mais en tout cas, moins à couteau tiré avec ces acteurs-là. Là, je pense que c'est assez manifeste. Puis même dans l'extrait que tu mettais, là, M. Carney, qui est pratiquement emphatique, là, il arrive avec le soleil et tout. Là, on
ben
voit
oui.
l'air épais. Mais oui, fait que c'est un changement de marque, certainement, là, à ce niveau-là.
Ouais, est-ce que la population est dupe à l'effet qu'ils croient vraiment que là, soudainement, la CAQ, même si c'est Bernard Drinville qui a perdu, va garder son élan nationaliste avec Christine Fréchette?
Ben écoute, moi je pense que le plus important dans les réactions à l'élection de dimanche passé à la tête de la CAQ, c'est autant Paul Saint-Pierre Plamondon que Éric Duhaime. Les deux ont fait un peu leur pitch aux 42 % de caquistes qui ont appuyé M. Drainville parce qu'ils ont effectivement l'impression d'avoir une opportunité là. Le M. Plamondon qui a fait une longue lettre dans le Journal de Montréal hier, je ne sais pas si tu as vu. Hein,
ah oui, j'ai vu.
Les nationalistes, unissons-nous.
Honoré Mercier.
Mais oui, exactement. M. Duhaime qui dit qu'il y a 42 % des caquistes qui ont voté pour des idées conservatrices puis qui fait une promotion en disant que ton membership des conservateurs gratuit si tu coupes ta carte de la CAQ. Je pense que les deux voient un peu dans ce changement de ton-là, dans ce changement d'approche, une chance d'aller chercher des électeurs qui sont un peu plus à droite, un peu plus identitaires que Mme Fréchette peut l'être, puis qui seront peut-être pas satisfaits avec ce qui est proposé là. Souvent des électeurs qui n'aiment pas beaucoup M. Carney ou M. Marchand, par ailleurs. Ouais. Je pense que tout ça, il y a une cohérence là-dedans. Là. C'est-à-dire qu'on sent un changement de message. Et, en fait, on pourrait dire aussi du côté du Parti libéral, qui est peut-être plus proche de ces positions-là vis-à-vis de ces acteurs-là, la tentative de M. Milliard dans les derniers jours de se réaligner un petit peu sur la langue française pour un peu doubler la CAQ, si on peut dire, ou la côté. Je pense que tout ça, c'est pas anodin. Là, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements cette semaine parce que, veut pas, l'arrivée de Christine Fréchette, ça change la donne, ça brasse les cartes. Puis il y a beaucoup de gens qui sentaient un peu qu'il y avait des électeurs qui étaient peut-être de retour sur le marché puis qu'il fallait se redéfinir face à cette nouvelle marque-là là, à la tête de la CAQ. Donc.
Maintenant, premier grand test pour Christine Fréchette, c'est de faire un conseil des ministres. Et là, quand on fait un conseil des ministres, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des frustrés. Là, présentement, il y a des gens qui ont dit « je ne me représente pas ». Exemple, Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault. Si t'es Christine Fréchette, t'es mets-tu dehors du Conseil des ministres?
Bien, c'est-à-dire que si t'es sérieux, que tu veux former le prochain gouvernement en octobre aussi, moi, je pense que ça devrait être à considérer d'avoir des choix un peu déchirants, de dire il y en a qui, oui, ont été des piliers du gouvernement dans le passé, mais là, si on change et qu'on regarde vers l'avenir, bien, est-ce qu'on peut charger notre équipe avec des gens qui ont déjà dit qu'ils ne se représentaient pas, d'autant plus que, j'aimerais te rappeler que Mme Fréchette, elle a dit qu'elle aurait moins de 30 ministres. Mm-hmm. Elle n'a pas été aussi loin que M. Drainville à dire que ça serait juste 20. Mais quand même, elle a un petit problème là, ou au moins un casse-tête, parce que beaucoup de gens du Conseil des ministres, n'est-ce pas, lui ont donné leur appui. Donc, il va y avoir quelque chose à équilibrer là si on décide qu'il y en a moins. Et en plus, des appuis, n'est-ce pas, de M. Drainville à intégrer aussi, parce que je pense que le grand point d'interrogation qui est encore un peu dans l'air cette semaine, tu parlais de nationalisme, mais ça va être c'est quoi la place que l'aile, disons, plus bleue, l'aile plus à droite aussi de la CAQ, va avoir dans ce gouvernement-là renouvelé, parce qu'à date, la seule chose qu'on a entendue sur le Conseil des ministres, c'est que M. Jeanlin Barrette perdrait probablement son dossier de la Constitution. Fait que ça, dans la colonne ralliement, c'est pas un bon point, là, si on peut dire. Fait que ça va être de voir comment elle va être capable d'équilibrer tout ça, parce que ça n'a pas l'air d'être acquis d'avance.
Non, en effet, ça, on va surveiller Étienne Alexandre, et en terminant, on surveille vraiment le sort réservé à Simon Jolin Barrette, Bernard Drainville et Sonia Bélanger, qui a réitéré qu'elle voulait être ministre de la Santé. Ça va être là qu'on va voir si ces deux gangs-là ont été capables de se réconcilier.
Oui, absolument, absolument. Je pense que ça va être un des gros développements des prochaines semaines. Si j'ai bien compris, le Conseil des ministres devrait être annoncé assez bientôt. Fait qu'on va avoir... On va avoir une réponse. Moi, j'avais entendu mardi prochain.
Oui, moi aussi, j'ai entendu ça. Mais tout à l'heure, une nouvelle collaboratrice à l'émission, Emmanuelle Latraverse, tu sais, j'ai bien dit le nom, Pascal, a mentionné que là, elle avait des informations que ce serait plus mercredi parce qu'on était encore hésitant sur le sort de certaines personnes.
Ah, oh, OK. Mais en tout cas, on sera fixé avant la fin de la semaine.
Et voilà. Étienne Alexandre, toujours un bonheur de te parler. On se reparle rapidement.
C'est bon, bonne fin de semaine à vous deux.
Salut, merci. Étienne Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault, une personne qui était justement au congrès des caquistes, représente cette aile nationaliste et cette aile identitaire de la CAQ.
Simon Jolin Barrette s'était affiché à Bernard Drainville.
Oui.
Il semblerait qu'il était vraiment déçu, là, qu'il aurait quitté rapidement.
Ah, il est parti rapidement. Mathias nous l'a confirmé. Mais... il est parti rapidement, la baboune, tout le kit, il n'a pas voulu parler à personne.
Mais l'affaire, c'est qu'il... il est un élément clé du parti.
Ben
si
oui.
Christine Fréchette est intelligente politiquement parlant, il
ouais.
faut qu'elle le garde dans un poste
pas
clé
le choix.
Et se dit poste la justice. Mm-hmm. Faut pas que tu le bouges.
Ah non, faut pas que tu le bouges de là. Il y a beaucoup de rumeurs de Bernard Drainville au Conseil du Trésor. Honnêtement, ouais. j'y crois parce qu'il pourrait attaquer justement le fameux État lasagne qui parlait. Avec,
C'est un gros ministère.
Ça, honnêtement, ça montrerait vraiment de la réconciliation.
T'as raison, ouais.
Puis France-Hélène Duranceau, qui est très proche de Christine Fréchette, je pense qu'elle pourrait aller à l'économie justement et à l'énergie.
Mais elle a récompensé tellement de monde qui l'ont appuyé. Il faut qu'elle soit très respectueuse envers Bernard Drainville.
Ouais.
Simon bon Jean Barrett, comme non, on dit, c'est un élément clé.
Ouf. Exactement, ça va être à suivre. Je pense pas que Jean-François Roberge va suivre à l'immigration, même s'il l'a appuyé. On parle d'Yann Lafrenière qui gagnerait du galon. Donc, bref, ça va être très, très, très intéressant la semaine prochaine. Autre chose qui va être intéressante, Pascal, puis ça commence dimanche. 17h45.
Tu vas me parler d'hockey.
Canadien de Montréal Lightning de Tampa Bay. C'est le début de la série au 418-971-101. Faites-moi vos prédictions parce que, après la pause, on fait nos prédictions avec Alex Laramé, chroniqueur sportif à Boulevard 102.1.
Je veux juste rappeler que ici chez Leclerc Communication, on a la chance d'avoir l'aide aux employés. Si tu veux, je t'envoie le lien.
Celui qui présente une chanson sur le Canadien demain, c'est l'Archie ou Max Larouche?
Ça, c'est Maxime Gun Kelly. Ça, c'est différent.
Ah, c'est son autre personnalité. Ouais.
Qui t'a demandé de faire une chanson sur le Canadien en série?
Ça, c'est l'Archie qui a demandé à Max que passait la commande à Maxime Gun Kelly.
Je savais que c'était non, mais... de toi à toi.
Gravel dans le retour. Tous les jours en semaine, 14h.
Vous avez un véhicule à vendre? Chez Lévy Ford, on rachète votre véhicule sans obligation d'achat. Toutes les marques sont acceptées et obtenez la meilleure valeur pour votre véhicule. Et si vous voulez changer, Lévy Ford a aussi les meilleures offres pour votre nouveau camion. Lévy Ford, les forts de Lévy.
Employeur, soyons francs. Dans votre organisation, qui fait en sorte que tout fonctionne vraiment? Les réunions planifiées, les échéanciers respectés, très souvent, ce sont vos adjointes et adjoints administratifs. Depuis 40 ans, l'APSAC soutient leur développement professionnel. Inscrivez-les au congrès annuel de l'APSAC, 3 jours inspirants avec 7 conférences, 4 ateliers pratiques et du réseautage. Et en devenant membre, ils auront accès à plus de 120 heures de formation gratuite. Investissez dans ceux et celles qui soutiennent votre succès. APSAC.ca.
Vos compagnies québécoises Chouchou sortent du web l'instant d'un week-end au marché du printemps des Galeries de la Capitale. Rendez-vous dans la cour centrale du 16 au 19 avril pour faire le plein de trouvailles locales. Découvrez la programmation complète du marché du printemps au galerielacapitale.com.
Et si vous finissiez l'été en beauté? Le 12 septembre, pédalez dans Portneuf lors du Tour cycliste Santé Alcoa. Au profit de la Fondation Santé Portneuf, pédalons ensemble pour prendre soin de nous, chez nous.
Inscriptions et informations au santéportneuf.ca.
Salut, c'est Denis Gravel. Tous les lundis, 19h à Boulevard 102.1, manquez pas les podcasts des grands événements de Québec, la deuxième saison de notre série balado où on révisite les moments marquants qui ont façonné notre ville. Chaque épisode, je m'assois avec ceux qui y étaient, qui ont vu, entendu et vécu. On revient sur la tuerie de l'Halloween, l'histoire du FEC, le départ des Nordiques, la guerre des Hells et le 400e de la Ville de Québec. Des événements qui résonnent et qui doivent encore résonner aujourd'hui. Les grands événements de Québec tous les lundis 19h et dispo partout le lendemain sur YouTube et toutes les plateformes balado.
Le podcast Grands événements vous est présenté par Climatisation Paquette et sa vente de produits Mouvert.
La marque la plus fiable selon Protégez-vous.
Climatisation Paquette.
Depuis 80 ans, le groupe Germain est synonyme de confiance. Et l'achat de ton camion, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. C'est le mois du camion chez Germain Chevrolet. Profitez de taux à partir de 0% sur 72 mois à l'achat d'un Silverado ou Sierra 1500 et jusqu'à 6 000 $ de crédit au comptant. Ou louez-le à partir de 142 $ par semaine sur 27 mois avec 4 699 $ d'acompte. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, ouvert le samedi, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond.
Découvrez le Grand Crousty chez Benet et compagnie. Un nouveau burger généreux, garni d'une galette de poulet frit, de rondelles d'oignon, de bacon, de laitue, de fromage en grains, de cornichons et d'une sauce ranch épicée. Avez-vous la mâchoire qu'il faut? Disponible chez Benet et compagnie.
La zone spectacle extérieur, le chant du Festival Western de Saint-Tite revient en 2026 sur la scène SiriusXM. Dès le 11 septembre, voyez Max McNone, Matt Lang, Cameron Whitcombe et Blake Whitton. Billets au fwst.ca.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Chez La Tulipe, je fais ce que j'aime. Je profite d'une quantité incroyable de produits soldés. Je découvre une foule de nouveautés partout. Et grâce à mes achats de pêche, mon permis provincial est gratuit. Tout ça en magasin et en ligne chez La Tulipe.
La vente étiquette rouge est de retour.
Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h48 minutes, cette émission tire à sa fin et on va finir sans beauté avec du sport et les séries de la Ligue nationale en allant rejoindre notre chroniqueur sportif Alex Laramin. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, l'effervescence des séries est à Montréal, on est prêt.
Ok, oui. Comment tu vois cette série-là, Canadien Lightning, Alex? C'est deux équipes qui vont être au coude à coude. On l'a vu dans les deux derniers matchs entre les deux formations. Je m'attends à une série à bas pointage. Je crois vraiment qu'on va avoir du hockey de grande qualité.
Ben ouais, tu l'as mentionné hein, quand même, les deux derniers matchs entre le Canadien et le Lightning. Le Canadien l'a remporté... deux fois, en fait, 4-1 et 2-1. Mais par exemple, dans les deux autres matchs précédents, c'est Lightning là, qui avait eu le dessus, 6-1, 5-4. Moi, selon moi, la clé de cette série-là, c'est Jakub Dobesh. Si Jakub Dobesh ne peut pas être le gardien qu'on a vu dans les deux derniers matchs contre Lightning, c'est plate pour le Canadien, mais on n'a aucune chance parce que niveau attaque, selon moi, c'est assez semblable, là, même que je dirais peut-être que le Canadien a même une coche dessus le Lightning, mais je pense que c'est semblable. Niveau de la défense, c'est sûr que Noah Dobson, ça fait mal, on ne se le cachera pas. Mais du côté du Lightning, on n'a pas Victor Hedman. On ne sait pas s'il va revenir. Là, il est absent pour des raisons personnelles. Mais écoute, moi aussi, je pense que ça va être une série chaudement disputée. Et ma prédiction, écoute, je dois y aller avec le choix du partisan. Là, ça va être le Canadien, mais Canadien en 7, là, selon moi, il va jusqu'au bout dans cette série.
Ben vois-tu, je m'attends à une série qui va aller jusqu'au bout également. Moi, j'y vais avec Tampa Bay en 7, tout simplement parce que je pense que dans un match numéro 7, l'expérience du Lightning va faire une certaine différence. Et Vasilevskiy, qui a toujours performé dans ce type de match-là. Mais t'es pour de vrai, c'est une série, moi, où je ne vois, puis là, je vais prendre la bonne vieille expression, là. On lance un bon vieux 25 cents dans les airs, face c'est Canadien, pile c'est Lightning. Ah, j'ai eu pile, j'ai le Lightning en 7. C'est une série qui va aller à la limite, j'en suis convaincu.
Ouais, ben une chose que je trouve intéressante, par exemple, sur mise au jeu, les preneurs de livres, selon eux, le scénario le plus probable, c'est une victoire du Lightning en 5 matchs. Je trouve qu'on manque un peu de respect pour le Canadien. Là. Fait que ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi aussi, je pense qu'on va avoir une très belle série.
Ah, moi non plus. Le Canadien a démontré des très, très, très belles choses offensivement dans la saison. T'écoutes Nick Suzuki au-dessus de 100 points. Cole Caulfield, 51 buts. Slafkovský, 30 buts. Le Canadien est trop bien nanti offensivement pour se faire sortir en 5, même si le Lightning là, un bon gardien de but. Et surtout, si Victor Hedman ne joue pas dans la série, là, c'est sûr la série va s'étirer. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les séries commencent samedi, 15h, et le premier match oppose les Sénateurs d'Ottawa aux Hurricanes de la Caroline. C'est une série très intéressante. Les Canes nous ont habitués à se rendre en finale de conférence en série, puis ça s'arrête là de façon brusque. Mais là, les Sénateurs sont gros, sont physiques, sont offensifs. Hey, je trouve ça intéressant comme série.
Ah, tu vois, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Là. J'ai pas le même intérêt pour cette série-là. Je pense que ça va être dans les séries avec les codes d'écoute les plus basses. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. Les Hurricanes, pour moi, sont trop forts pour les Sénateurs d'Ottawa. Beaucoup de points d'interrogation, notamment devant le filet. T'sais, Hallmark, ça a été coup-ci-coup-ça cette saison. Problème de santé mentale, t'sais, on respecte ça, mais ça reste que sur la glace, ses performances, ça a été en haut, ça a été en bas. Moi, je vois les Hurricanes prendre le dessus assez facilement. Le Hurricanes en 5.
Vois-tu, moi, j'avais dit Hurricanes en 6. J'en donnais quand même une de plus aux Sénateurs. Dans l'autre série de la division Atlantique, ça, c'est une bonne vieille rivalité. Les Sabres de Buffalo, l'équipe surprise de la Ligue nationale cette année qui va affronter les Bruins de Boston. En passant, David Pasternak qui a terminé à 100 points pile encore cette année. Tu vois ça comment? Les jeunes Sabres s'en sortent ou les Bruins, avec les quelques vétérans qui restent, réussissent à surprendre les Sabres?
Ben, selon moi, l'expérience de Boston va profiter là, dans cette série-là. Je veux dire, les Sabres, c'est une montée irrésistible. On est tous d'accord, probablement, que Lindy Ruff a gagné le trophée Jack Adams pour le meilleur entraîneur. Mais selon moi, en série, avec Swayman devant le filet, notamment du côté de Boston, ça pourrait faire la différence. Tu l'as dit, Pasternak, 100 points. Selon moi, c'est le meilleur joueur à travers ces deux équipes-là. Donc, non, je vais y aller pour une victoire de Boston là, en 6.
Oh, prédiction audacieuse. Moi, vois-tu, je suis allé avec les Sabres en 7 en me disant que, justement, la logique du classement allait être respectée. Dernière série dans l'Est, les vétérans, les Eric Karlsson, les Sidney Crosby, les Evgeny Malkin, les Christopher Le Temps contre les jeunes Flyers affamés qui ont fini la saison en feu. Je vais te dire ma prédiction avant toi. Les Flyers vont l'emporter en 6. Trop d'énergie, trop de vitesse. Trop de robustesse pour les vieux pingouins.
Moi, tu vois, c'est une série que j'ai baptisée la série Batman. Parce qu'en fait, c'est le format des séries de ouais. Batman qui a fait cette série-là. Parce que c'est l'équipe numéro 7 puis l'équipe numéro 8 dans l'Est qui s'affrontent. Une confrontation qu'on n'aurait pas eue avec un format 1-8. Mais bon, selon moi, non. Moi, je pense que l'expérience des pingouins sont quand même troisième hein, pour les buts marqués cette saison. Ça a l'air de rien. Anthony Manta, québécois, 33 buts cette saison. Mm-hmm. Anthony Manta qui est vraiment... Il a connu une renaissance là, avec les Pingouins. Mais non, selon moi, toute la gang de Crosby ne voudra pas justement que peut-être une des dernières poussées en série de Crosby s'arrête en première ronde. Moi, je vois une victoire des Pingouins en 6.
C'est le fun, Alex, parce qu'on a trois choix différents présents. J'aime beaucoup. On y va rapidement. En 30 secondes dans l'Ouest, on dit l'équipe et le match. Stars de Dallas, Wild du Minnesota, ça commence à 17h30 samedi. Je dis Stars en 7.
J'y vais Wild en 7, ça se rend jusqu'au bout.
Ah, oh, c'est normal, fun. Avalanche King, ça va être une petite balade dans le parc de 5 matchs pour l'Avalanche.
Colorado en 4, aucune chance pour les Kings.
Les Mammoths de Utah contre les Golden Knights. Les Golden Knights sont en feu, j'y vais avec les Knights en 4.
Ah, je vais y aller avec le Mammoth en 7, juste pour voir John Tortorella. PA. juste pour ça.
Et ça commence lundi soir, 22h, les Ducks d'Anaheim contre les Oilers d'Edmonton. Les Oilers vont faire une bouchée des Ducks en 5.
Ah oui, je vais aussi à Edmonton en 5.
Alex Laramin, toujours un bonheur. Écoute, on se fait un deal. On se fait toujours un petit 3-4 minutes de sport pour finir l'émission pendant les séries éliminatoires de la Ligue nationale. Ça a-tu de l'allure, ça?
Ah, toujours dispo pour toi, mon Jeff.
Magnifique! Salut, Alex. Je te souhaite un excellent week-end. Pascal CV, en terminant, on rappelle aux gens les entraves. Exact. Pour les travaux routiers, notamment sur Henri IV.
Oui, sur Henri IV, boulevard Laurier, s'entraîne 3 prochaines semaines plus difficiles, des restrictions aussi additionnelles à la circulation. Il faut savoir que c'est réduit à une seule voie par direction pour le boulevard Laurier. On propose le boulevard Schlaga comme itinéraire alternatif. En ce qui concerne Henri IV, bien, c'est fermé dans les deux directions jusqu'à lundi. Il faudra emprunter Duplessis pour avoir accès au pont.
Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end, Pascal.
À toi aussi, prudent sur la route.
Ah oui, je m'en vais voir Jérôme 50. Au fofon électrique.
Amuse-toi.
On est parti. Le retour de Gravel arrive à l'instant même. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 101, guys. Bon week-end. Gravel.